Vous êtes sur RTL.
Équipe. Et avec une pensée particulière pour Marina Giraudeau, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Ah, merci Yves, bonne journée.
Bonne journée à vous Marina. Il a partagé notre vie pendant près de 50 ans, on l'a vu tout faire avec un aplomb jamais démenti, un charme et une énergie évidente et un rapport à la vérité un peu particulier. Bref, vous l'avez compris, Bernard Tapie est avec nous ce matin, tel qu'on l'a connu, bête de télévision, nous dira Laurent Marsic à 7h20, chef d'entreprise aimé des Français, nous expliquera François Langlais, il sera 7h40, et son ami et avocat Jean-Louis Borloo sera ensuite l'invité d'Alba Van dès 7h45. Bernard Tapie a aussi passé beaucoup de temps dans des salles d'audience. Nous donnerons donc aussi la parole à Éric de Montgolfier, ancien procureur de Valenciennes, que je recevrai à 8h20. Il était en poste dans la ville nordiste au moment de l'affaire Valenciennes-Marseille. Nous sommes le lundi 4 octobre 2021. Très bonne journée à tous sur RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une de cette édition, la disparition de Bernard Tapie, bien entendu, son fils Stéphane témoigne ce matin sur RTL.
Et on découvre aussi cette facette plus secrète d'un homme qui était adoré par les siens. Son fils effectivement s'exprime ce matin sur RTL M6. Il retient l'amour d'un père, d'un mari et le courage d'un homme également face à la maladie. C'est à Marseille où l'émotion a été la plus forte hier. Tout le monde l'appelle là-bas le boss. Bernard Tapie qui a choisi d'ailleurs d'être enterré dans cette ville. Dans ce journal également, la ruée vers les pneus neige, c'est une information RTL. Avec les règles qui changent au 1er novembre, les ventes ont déjà été multipliées par 2 au mois de septembre. Les Bouches-du-Rhône placées en vigilance rouge ce matin, c'est le sud-est du pays qui est touché par les orages et les fortes pluies. Et puis les coureurs de Paris-Roubaix, héroïques hier, exténués à l'arrivée, eux aussi ont eu la pluie et la boue sur les pavés de l'enfer du Nord.
La politique, Olivier Bost.
Et ce week-end à Avignon, nous avons vu la majorité tourner à vide, suspendu à son champion.
Vous nous expliquez ça dès la fin du journal.
RTL Matin.
L'homme aux 1000 visages et aux 1000 talents. On a beaucoup entendu ces expressions depuis la disparition hier matin de Bernard Tapie. Sa réussite, sa gouaille, son charisme fascinaient autant qu'il agaçait ceux en tout cas qui gardaient en mémoire les épisodes plus sombres de sa vie. Mais c'est une facette beaucoup plus touchante et intime du personnage qu'on découvre également. Un homme adoré par les siens, par sa femme Dominique, par ses enfants, par ses petits-enfants. Ils l'ont accompagné hier matin jusqu'au dernier souffle. Et l'un de ses fils, donc Stéphane, témoigne ce matin sur RTL. Il retient d'abord le courage de son père face à la maladie.
Jusqu'au bout, comme d'habitude. Jusqu'au bout, et voilà, il est parti apaisé.
Il était entouré de toute sa famille,
sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Voilà.
Comment vous réagissez face à toutes les réactions, tout ce qu'il y a autour de votre papa, toutes ces immenses preuves d'amour durant toute cette journée que vous avez dû recevoir?
À la fois énormément de fierté, beaucoup, beaucoup de bien au cœur, mais en même temps un peu gêné parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aux gens qui vivent la même chose et qui n'ont pas notre chance d'avoir tous ces témoignages uniques et magnifiques. Voilà, très touché, mais on a vraiment envie de le partager avec ces gens qui vivent la même chose et qui sont dans l'anonymat.
Son épouse doit être particulièrement bouleversée par toutes ces années de vie commune avec votre papa.
Forcément, elle a passé 50 ans de sa vie à ses côtés, donc c'est pas rien. Et puis à ses côtés, à lui, encore moins. Donc voilà, aujourd'hui, le clan se ressoude autour d'elle.
L'émotion de Stéphane Tapie, interrogé par notre confrère d'M6, Stéphane Tortora.
Stéphane Tapie qui a vraiment le timbre de voix de son papa, c'est étonnant. C'est à Marseille, en tout cas, que Bernard Tapie a choisi d'être enterré.
Oui, dans cette ville où, pour le coup, il fait l'unanimité, où il a été le patron le plus emblématique de l'OM, vainqueur de la Coupe d'Europe, évidemment, en 1993. Et c'est d'ailleurs devant le stade Vélodrome, où son portrait a été affiché dès hier, que les Marseillais nombreux sont venus lui rendre hommage. Reportage d'Hugo Hamelin.
Des roses blanches au pied du portrait du boss, des dizaines et des dizaines de fidèles ont naturellement convergé sans se donner rendez-vous vers le théâtre des rêves de Bernard Tapie, personnage indélébile de l'histoire de l'OM.
C'est la légende Tapie, le boss quoi. J'ai dit il faut que je sois là.
Quand vous arrivez, vous arrivez dans ce stade, l'empreinte Bernard Tapie est là et à chaque match, voilà, les battements de son cœur sont dans les tribunes du virage nord et du virage sud. C'est son identité, voilà, c'est d'aller droit au but. Il s'est imprégné de Marseille, de son identité, de sa diversité. Bernard Tapie, c'est Marseille.
À tel point que certains supporters ont réclamé sur une banderole de lui donner le nom du stade, cette cathédrale du foot, le temple populaire de Marseille, où Bernard Tapie devrait faire un ultime crochet avant d'être inhumé.
J'espère pouvoir rentrer dans le stade et qu'un dernier hommage lui soit rendu avec tous les supporters olympiens.
Ouais, comment vous voyez les obsèques? Ce serait quoi l'idéal pour vous? Dites-moi.
Le cercueil au milieu du stade, au milieu de la pelouse, et tous les supporters dans le stade.
Des cahiers de condoléances seront à disposition dès ce matin dans ce stade pour ceux qui veulent raconter, dire adieu à Bernard Tapie, qui s'est envolé comme une seconde étoile sur le maillot de l'OM.
Un reportage d'Hugo Hamelin. Et effectivement, comme le disait Hugo, une chapelle ardente sera dressée jeudi au stade Vélodrome avant les obsèques le lendemain à la cathédrale La Major.
Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Olivier. Quoi que l'on pense de l'homme et de son parcours, Bernard Tapie avait forgé beaucoup d'admiration dans son combat contre la maladie.
Oui, ce cancer qui le rongeait depuis 4 ans, dès le départ, il avait choisi d'en parler publiquement au nom de tous les malades. Et ce courage, tout le monde l'avait vu dans le journal de 20h de TF1 face à Gilles Boulot, alors qu'il était déjà très affaibli en avril dernier.
Tout a de l'importance. Je suis gavé de rien. Et si demain, j'ai encore de la voix, vous voulez que je vous fasse une confidence? Le louche m'attend avec ses caméras, ses réalisateurs. Il veut faire un dernier film avec moi. Et je suis footballeur parce que dedans, il y a des mecs exceptionnels et des femmes exceptionnelles. Vous savez ce qui me rend très fier? Monsieur Delon vient de faire un film dans lequel il dit « J'ai trois idoles, Bernard Arnault, Belmondo et Tapie. » Et vous voudriez que j'ai envie de partir? Mais enfin, la vie est belle.
Et le courage et les mots de Bernard Tapie aux 20h de TF1, c'était donc en avril dernier. Alors il se trouve que cette semaine, la Cour d'appel de Paris devait rendre sa décision et dire si oui ou non Bernard Tapie avait participé à truquer l'arbitrage grâce auquel il avait touché 400 millions d'euros d'indemnité, lui considérant depuis toujours qu'il avait été floué dans le cadre de la vente d'Adidas dans les années 90. La mort de Bernard Tapie, c'est la règle, éteint la procédure, le concernant en tout cas, Guillemette Franquet.
Relax ou condamnation, on ne saura pas quelle décision attendait mercredi Bernard Tapie. L'audience sera bien ouverte à la cour d'appel, mais elle constatera l'extinction de l'action publique à l'encontre de l'ancien ministre. Quant aux 5 autres prévenus dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais, la décision est bien attendue ce mercredi, mais un report de date peut avoir lieu. Jusqu'au bout, Bernard Tapie avait voulu assister à son procès en appel. Quand au printemps, l'homme d'affaires s'est senti trop faible pour continuer, il a refusé que la procédure continue sans lui. Il a même demandé à ses avocats de ne pas le représenter en son absence. Le procès s'était achevé sans lui. En revanche, les procédures civiles vont se poursuivre, elles, à l'encontre des sociétés de Bernard Tapie. En avril 2020, elles ont été placées en liquidation judiciaire pour rembourser ses dettes. Une audience d'étape aura lieu jeudi.
Merci Guillemette Franquet. Les démêlés judiciaires qui ont été le grand point noir de la vie de Bernard Tapie, qui a fait, on le rappelle, 165 jours de prison, condamné à l'époque dans l'affaire OMVA.
Une pause et dans un instant, le boom des pneus d'hiver. C'est une information RTL. Les ventes ont été multipliées par 2 en septembre à cause des changements de règles à venir. On va vous expliquer tout ça.
RTL Matin. RTL Matin.
Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. À l'approche de l'hiver, c'est une information RTL. Les ventes de pneus neige ont été parfois multipliées par 2 en septembre.
Oui, conséquence de la loi montagne qui va imposer au 1er novembre d'avoir des équipements spécifiques dans les communes montagneuses de 48 départements, Christophe Bourou.
Depuis un mois, le nombre de vues sur les sites internet dédiés aux pneus a littéralement explosé. C'est le cas chez allopneus.com, numéro 1 des ventes en ligne en France, comme le constate sa directrice marketing, Coralie Maslow.
On a un trafic qui est en nette augmentation depuis le début du mois de septembre. On est à plus de 112%.
On se renseigne, mais aussi on achète.
On voit que les ventes de pneus hiver ont été multipliées par 2. Et sur les pneus 4 saisons, multiplication des ventes de l'ordre de 15%.
Les ventes sont déjà équivalentes à un mois hivernal du jamais vu, avec aussi une ruée sur les chaînes ou chaussettes à neige, équipements qui vont devenir obligatoires pour tous ceux qui ne possèdent pas de pneus adaptés.
En chaînes et chaussettes, on a multiplié par 20 les ventes avec une forte demande sur les chaussettes. Mais c'est une vraie surprise, on ne s'attendait pas à avoir autant de demandes.
Les professionnels se veulent toutefois rassurants sur les stocks, expliquant avoir anticipé la demande.
Merci beaucoup Christophe Bourou. Vous le savez, les masques tombent pour les élèves de primaire de 47 départements aujourd'hui. Les enfants du CPOCM2 ne seront plus là-bas obligés de porter le masque, donc dans ces régions où l'épidémie a le plus reculé ces dernières semaines. Reportage à l'école primaire de Saint-Èvre-de-Toul en Meurthe-et-Moselle. Samuel Goldschmidt.
C'est peu dire que cette mesure est attendue côté extérieur du portail de l'école.
Il n'y a plus de masque pour les primaires, il n'y a plus de masque pour les primaires, c'est gouvernemental.
Je sens une certaine impatience,
oui,
une certaine...
Oui, une certaine joie pour ma fille, ouais. Parce que le masque à l'école, ça l'étouffe, elle n'est pas bien, elle en a marre. J'attends juste maintenant que ce soit pour le collège aussi, parce que les grands sont au collège.
Et ceux qui apprennent la nouvelle dans la cour sont tout aussi réjouis.
Oh, cool! Parce que c'est horrible le masque, en plus on n'entend personne. C'est trop bien!
Ouais! Bah, parce que c'est... on va mieux respirer.
Bah oui, c'est déjà mieux. En gros, sous le masque, il fait largement trop chaud.
Il y a un peu plus de nuances côté enseignant.
Nous, on s'inquiète un petit peu plus, voir si ça va remonter au niveau des chiffres de contamination. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner sur les 15 prochains jours à partir de la levée du port du masque pour les enfants, en espérant qu'un jour, ce sera nous.
Pour cela, il faudra encore attendre jusqu'à nouvel ordre.
Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt, correspondant RTL dans l'Est.
7h11, attention dans les Bouches-du-Rhône, le département est placé en vigilance rouge ce matin.
Oui, on va faire le point avec vous, Louis Baudin. Bonjour, rebonjour.
Bonjour.
L'épisode pluvieux et orageux violent s'est décalé effectivement cette nuit vers le sud-est du pays.
Oui, c'est vrai, il est passé à l'est du Rhône, sur les Bouches-du-Rhône, sur le Var. Alors là, c'est en train de se calmer. Enfin, tout est relatif, les pluies sont moins intenses. Mais attention, ça va reprendre de plus belle cet après-midi. Hein. Voilà pourquoi ces départements restent en vigilance. Donc prudence tout au long de la journée avec ces pluies qui vont donc se réintensifier cet après-midi. Des pluies qui ont déjà été très intenses dans l'ouest. On a battu des records en Loire-Atlantique, au sud du Massif central. Et donc attention encore une fois à cette évolution durant cette journée.
Merci beaucoup. Louis Baudin, on va suivre tout ça évidemment avec vous. Et de la pluie, eux aussi en ont eu hier. Impressionnantes ces images des coureurs de Paris-Roubaix, le visage maculé par la boue. C'est l'Italien Colbrelli qui a gagné cette version automnale de l'Enfer du Nord, qui va à coup sûr entrer dans la légende, Nicolas Georgerot.
Ils passent la ligne exténués, vidés de toutes leurs forces et à la recherche d'un réconfort. Certains s'allongent dans la pelouse détrempée du vélodrome pour reprendre leurs esprits. Christophe Laporte, 6e et premier français.
En vrai, c'était un peu sauf qu'il peut, hein. La tactique, on s'en occupait pas trop. Tout ce que le plus important, c'est de rester sur le vélo et essayer de revenir à l'avant. C'est Paris-Roubaix, on contrôle pas ça.
Les glissades, les chutes en cascade, la boue omniprésente, les gueules noires en terre nordiste. Clément Davy a fini à 10 minutes du vainqueur, Sonny Colbrelli.
À un moment donné, il me semble secteur 16, il y a eu une chute devant moi. Je dis bah là, je suis par terre parce que bah je pouvais pas freiner. Et en fait, j'ai tapé le gars et en fait avec la pluie, bah je l'ai poussé puis bah j'ai fait mon chemin et je suis pas tombé. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester. Hein. Grâce à ça, bah, j'ai pas chuté.
Anthony Turgis a longtemps accompagné le groupe des favoris.
Voilà, il y a eu beaucoup plus d'efforts, de vigilance. Il y a eu le froid qui est rentré aussi en compte et tout ce qui est un peu pluie et boue dans les yeux qui fatigue vachement.
Il fallait voir les yeux rougis de beaucoup de coureurs, les paupières boursouflées après 6 heures sur le vélo.
Ah, c'était effectivement impressionnant. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. La fin de la 9e journée de Ligue 1 de football. Match nul hier soir, un partout dans le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Marseille a perdu 2-0 à Lille et a noté la première défaite de la saison pour le PSG, 2-0 à Rennes. Au classement, le Paris Saint-Germain est leader devant Lens et Nice. Un mot de rugby, 5e journée du top 14. Clermont a battu hier soir le Racing, 26 à 17.
Et les courses ont lieu aujourd'hui à Enghien-Soisy.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 9, le 7, le 6, le 13, le 10 et le 11. La dernière minute étant le 6, cœur de loup.
Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. La politique maintenant avec Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce que vous avez vu ce week-end, c'est une majorité tournée totalement à vide en attendant son champion.
Bah oui, ce week-end à Avignon, la majorité s'est chauffée à blanc pour la présidentielle, mais vraiment à blanc, sans son candidat, pas encore candidat, Emmanuel Macron. Un lancement de campagne fantomatique, m'a décrit un participant. Les dirigeants de la majorité ont donc passé une partie de leur week-end dans une forme d'idolâtrie du grand absent, le président. Les responsables de la majorité ont tourné à vide au point de n'avoir comme sujet de conversation que la poussée d'Éric Zemmour ou la maison commune, l'arlésienne d'une nouvelle majorité, un mécano politique qui aura bien du mal à passionner les foules.
Mais pourtant, il y avait du monde hein, ce week-end à Avignon.
Ah oui, 4000 personnes selon les organisateurs. De belles images, de salles pleines de fervents militants, des images de meetings de campagne, mais sans le carburant d'une campagne. La majorité est comme suspendue au talent et au bon vouloir d'Emmanuel Macron. Et tout à l'attente de son talent, En Marche est en train de disparaître. 2022 ne sera pas 2017.
Mais après tout, c'est l'histoire de tous les partis au pouvoir que vous nous décrivez. Hein.
Bah oui, c'est un classique. Hein. Les partis au pouvoir sont toujours comme anesthésiés à chercher leur rôle sans jamais le trouver. Là, En Marche ne fait même pas semblant de trop y réfléchir, de remuer des idées pour alimenter les débats. C'est Emmanuel Macron qui fera tout. Il a déjà trouvé comment faire campagne sans être candidat. Il y a le recours à outrance au carnet de chèques, nous en avons déjà parlé. Emmanuel Macron lance aussi des réformes qui se réaliseront après 2022. Son programme, c'est cette façon toute particulière d'enjamber l'élection. S'il est réélu, tout ce qu'il aura lancé avant arrivera à son terme. Ainsi va la réforme des retraites, surtout. Ah oui. Ainsi va le revenu jeune, qui n'a toujours pas de nom. Ainsi ira France 2030, un nouveau plan de relance pour l'avenir qui, lui, va même au-delà du prochain quinquennat. Tout ce programme sera dévoilé ce mois-ci.
Bon, c'est une stratégie plutôt intelligente, non ?
Alors, dans une étrange formule, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale et très proche d'Emmanuel Macron, a dit hier « C'est comme si nous avions aujourd'hui 5 ans de moins, c'est pour cela que nous espérons 5 ans de plus. » Alors, je vous laisse méditer cette phrase, 5 ans de moins pour 5 ans de plus. Alors, voici mon interprétation. 5 ans de moins, c'est une cure de rajeunissement pour retrouver l'énergie des débuts qui manque un peu aujourd'hui et pour faire oublier que les 5 ans qui viennent de se passer n'ont pas tenu toutes leurs promesses. 5 ans de plus, il va falloir trouver un meilleur slogan de campagne.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, l'invité d'Alba Ventura est donc ce matin, je vous le rappelle, Jean-Louis Borloo, l'avocat, ancien ministre et proche de Bernard Tapie, sera en studio pour lui rendre un dernier hommage après plus de 40 ans d'amitié. Dans un instant, RTL événement avec Laurent Marsic du service culture d'RTL. Bernard Tapie était un homme de télévision, une bête médiatique, et nous allons réentendre quelques-uns des passages devenus absolument cultes de ses émissions.
RTL événement.
Il est 7h19. Bernard Tapie, l'homme de télévision, ses coups de gueule, son charme, sa répartie ont fait de lui un incontournable des plateaux de télévision. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Retour avec vous sur plus de 40 ans de télé et des centaines d'émissions, je dis bien des centaines d'émissions avec Bernard Tapie.
Oui, avec des séquences restées cultes. Nous sommes en 1980 lorsque les caméras et les journalistes s'intéressent à ce jeune entrepreneur qui, à l'époque, a des vues sur la société Manu France à Saint-Etienne. Moment de télé incroyable lorsqu'en pleine interview en voiture pour Antenne 2, l'Ex-France 2, la journaliste et Bernard Tapie croise le fils de Bocassa, dont Tapie a tenté en vain de racheter les châteaux.
Ouais, celui qui arrive là, c'est Saint-Cyr Bocassa. Là, vous allez pouvoir faire un truc fabuleux là. Au feu rouge, si tu te manges un peu, on le rattrape. Fais-lui des appels là.
Salut, viens me faire. Salut Saint-Cyr, comment tu vas ?
Bernard Tapie, souvent là où on ne l'attend pas, est même vêtu d'un simple short et débardeur rouge aux côtés de Véronique et Davina dans Gym Tonic. Nous sommes encore dans les années 80.
Un énorme bravo parce que c'était
vraiment... Oui, mais moi je suis très content, d'autant que d'après ce que je sais, à la fin il y a une douche.
Alors il est à l'époque surnommé le gagneur.
Oui, élu homme de l'année en 1984, Bernard Tapie intrigue, son franc-parler fait de lui un redoutable interlocuteur. Le voici face au journaliste Hervé Chabalier sur l'ex-Antenne 2 en 1983.
Peut-être vous pouvez répondre à ma question, vous courez après quoi ?
En fait, quand on a la chance de savoir faire quelque chose qui à la fois vous fait plaisir et vous nourrit bien... En général, on n'arrête pas de le faire. Et ma course.
Homme
en avant,
d'affaires et homme politique. Nous sommes en 1989, dans un débat sur l'immigration, face à Jean-Marie Le Pen, organisé par TF1, les noms d'oiseaux volent.
Ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait.
Parce que vous avez votre garde du corps, là.
Non, moi.
Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous.
Regardez-vous. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs plus tard sur Antenne 2, cette fois-ci au début de l'interview. Palamar sort d'un sac. Des gants de boxe.
Mais il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'est le rouge.
Seulement.
Oui, oui.
Ah, on ne les garde pas.
Non, on les rend demain. Pas de cadeaux et pas de corruption. Oui,
Bernard Tapie, visage crispé, aura ces simples mots.
Bernard Tapie, donc intention également pacifique.
C'est sérieux la politique.
C'est sérieux la politique. Les gants de boxe coûteront d'ailleurs la place à Paul Amar.
Et puis les déboires judiciaires de l'homme d'affaires vont faire de lui non plus un homme qu'on admire, mais un homme qu'on questionne et parfois durement.
Oui, ça donnera lieu à de multiples colères, comme ici face à la journaliste Audrey Pulvar sur iTélé en 2014. Elle souhaitait l'interroger sur l'arbitrage lié à l'affaire Adidas.
Vous êtes des marchands de mauvaises nouvelles.
D'accord,
la seule chose, laissez-moi vous dire, ça vous emmerde que je dis ça, la seule chose qui vous intéresse, c'est, c'est le sang. Voilà, je ne répondrai pas.
On joue aux cartes ?
Comment ?
On joue aux cartes, on fait quoi ?
Ou encore ici sur BFM TV, lorsque la journaliste évoque ses relations supposées avec Jean-Marie Le Pen.
Je peux me lever et partir.
C'est une question importante, vous pouvez dire qu'il y a plein...
Mais
vous,
voilà.
Non,
hein, je vais être prêt
Tapie,
à vous consacrer deux heures.
Bernard
je vais pas faire 20 minutes sur le fait que vous êtes en train de vouloir me faire dire ce qui n'est pas vrai.
Enfin, loin des coups de gueule, il y aura aussi les derniers moments, les moments émouvants d'un homme malade racontant son combat contre le cancer. C'était sur TF1 il y a moins d'un an.
Quand on est en bonne santé, putain, profitez-en. Dites-vous le matin, super, je vais bien. Parce qu'il n'y a que quand on a perdu la santé qu'on se rend compte que c'est capital. Regardez, je parle comme un con.
En 40 ans de télé, Bernard Tapie aura participé à plus de 300 émissions de télé.
Merci Laurent Marcy. Hommage ce soir sur Paris Première dès 20h55 avec la pièce de théâtre Les Montagnes Russes d'Éric Assous qu'il a interprété. Et puis suivi d'un 93 Faubourg Saint-Honoré spécial Vieux-Port de Marseille où Bernard Tapie était justement présent autour de la table. Rendez-vous donc ce soir sur Paris Première.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On poursuit notre hommage à Bernard Tapie. Vous avez choisi de lui consacrer votre pépite musicale du jour.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'âge de 23 ans, Bernard Tapie avait décidé de se lancer dans la musique. C'était les années yéyé, on était en 66. Alors pour tenter d'exister aux côtés de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Eddie Creever, c'est bien, il avait demandé à ce qu'on prononce son nom à l'américaine. Il se faisait appeler Bernard Tapie.
Non.
Si, écrit T-A-P-Y sur les pochettes de ses 45 tours, aujourd'hui collector. Il était auteur, compositeur, interprète. Bernard Tapie a signé une quinzaine de chansons à l'époque, Les Pistonnés, Vite un verre, Je les aime toutes et ce morceau intitulé Pour de rire, pour de vrai.
Si je te disais que je n'aime pas l'amour, ça serait pour de rire. Si je te disais que j'y pense nuit et jour, ça serait pour de vrai. Si je te disais que tu étais la première, ça serait pour de rire.
Autre pépite du répertoire yéyé de Bernard Tapie, l'adaptation d'un chant patriotique américain, Passeport pour le soleil.
Passeport pour le soleil, conduis-nous vers tes merveilles. La terre est loin, à nous le ciel. Viens mon frangin.
En 1985, Bernard Tapie était un homme d'affaires avisé. Il a interprété à la télé le blues du businessman, la chanson de Starmania « J'aurais voulu être un artiste ». Il est retourné en studio cette même année pour enregistrer un nouveau 45 tours, deux chansons signées Didier Barbelivien, « Je t'interdis » et « Réussir sa vie » qu'on a beaucoup entendu depuis hier. Et autre pépite, à la fin des années 90, en 1998, après 165 jours passés en prison, Bernard Tapie avait enregistré un duo avec Doc Gineco. C'est beau la vie.
N'oublie jamais d'où tu viens.
La rue, c'est mon terrain. Chacun sa part dans la bagarre.
Tu les as vus, les petits taulards. Tu les as croisés au parloir.
J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard.
Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt.
Arrête de compter en barrette. On te manipule la tête. Tu votes, mon
pote. Il a tout fait, là aussi. Tout.
Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères.
Je retiens entre autres qu'il se faisait appeler dans les années 60 Bernard Tapie avec un Y, mais je vous jure, je n'en reviens toujours pas. Merci beaucoup, Anthony. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales à tout moment, en replay, et bien entendu, via l'appli RTL. On retrouve les grosses têtes de Laurent Ruquier et un point météo de Louis Bodin dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin.
Sourire et rire ensemble avec les grosses têtes chaque jour de 15h30 à 18h. Et voici donc quelques fake news.
Caroline Diamant.
Comme j'ai un QI de 130, je pense quitter Paris vu que c'est limité à 30.
Christophe Beaugrand.
J'ai fait un bilan de compétences journalistiques. Résultat, on m'a dit que j'étais trop à droite pour travailler sur BFM et trop à gauche pour travailler sur CNews.
Isabelle Mergaud.
Je n'avais aucun défaut de prononciation avant de faire une gâterie à Sébastien Chabal.
Eh ben moi, j'ai décidé de m'inspirer de Gérard Depardieu. Mon prochain spectacle, c'est un récital des plus belles chansons de Barbara en ch'ti. Près d'Allah, que je m'étais endormi, quand je foudasse à bloc crevé le ciel, et venant de nulle part, surgissait le noir.
Ça va être bien.
Ça donne envie.
Jean Benguigui, pour terminer.
Pour emmerder Zemmour, j'ai lancé une procédure de changement de prénom pour m'appeler Rachid.
Barbara, par exemple, en scène, ça prend un caractère particulier. Rendez-vous dès 15h30 avec aujourd'hui Gérard Jugnot, Philippe Guéluc, Pierre Palmade, Sébastien Thoen, Julie Leclerc et Chantal Latsou. Louis Bodin, notre météo reste extrêmement perturbé dans l'Est et puis dans le Sud.
Et surtout dans le Sud-Est, ouais. Oui, effectivement, hein, notamment à l'Est du Rhône, on va surveiller encore cette situation. Alors là, c'est vrai qu'a priori, les averses sont un tout petit peu moins intenses, même s'il y a encore des orages là, entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Mais attention, cet après-midi, ça va reprendre de plus belle, si je puis dire, en tout cas, forte intensité depuis tout au long de la journée, d'où le maintien en vigilance orange et même rouge pour les Bouches-du-Rhône. Donc situation très préoccupante tout au long de la journée. Ça ne se calmera pas avant la soirée. Dans les autres régions, ça ira un petit peu mieux, même si on a encore beaucoup de pluie dans les régions de l'Est. Mais ailleurs, on aura au moins de belles éclaircies et puis des averses qui reviendront déjà par l'Atlantique, par le littoral de la Manche, tout avec des températures à peu près de saison, voire un peu en dessous. 14 à 16 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, 17 à 20 degrés ailleurs et encore 24 à 31 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 4 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Il est mort à Paris, mais c'est bien à Marseille que Bernard Tapie va reposer pour l'éternité, selon sa volonté. Marseille, sa ville de cœur. Une messe sera célébrée vendredi matin à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Et Bernard Tapie sera inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud. C'est ce qu'on a appris dans une lettre d'Emmanuel Macron, publiée par le quotidien La Provence. Une lettre d'hommage, Julien Fautra, celle d'un vrai supporter de l'OM.
Oui, il présente Bernard Tapie comme étant le visage de la victoire. Emmanuel Macron évoque le souvenir de 1993, la Coupe d'Europe à jamais les premiers, reprenant ainsi le slogan des supporters. Tapie l'homme, selon le président, qui emmena l'OM sur le toit de l'Europe. Je n'oublierai pas cette nuit enchantée de mai 1993, où quelques minutes après le but de Basile Boli, il brandit, sourire aux lèvres, la coupe aux grandes oreilles, tant attendue par toute une ville, par tout un peuple. Et dans une allusion encore très politique, à quelques mois de la présidentielle, le chef de l'État conclut, Bernard Tapie nous ordonne de continuer de croire en nos rêves.
Merci Julien Fautra. Et dès jeudi, les Marseillais pourront dire un dernier adieu à leur boss au stade Vélodrome où une chapelle ardente va être installée. Ils étaient déjà nombreux hier devant l'enceinte sous une photo du patron. Parmi eux, l'un des plus fervents supporters de l'OM, Thierry Maude alias Titi.
On s'y attendait, on était préparés, mais finalement, quand la nouvelle elle tombe, on est jamais prêt de toute manière. C'était quelqu'un d'hyper gentil, de très affectif, du cœur sur la main surtout, parce qu'une fois en déplacement, les places de parkage étaient chères. Et ils avaient été le voir, il avait payé lui-même les places. C'était un gagnant, un battant, on l'a vu quand il a arraché la vie claire à l'équipe de vélo. Bah, c'est le dernier Français qui a gagné le Tour de France. Hein. Il a arraché l'OM et il a gagné le Graal, il a tout gagné.
Titi au micro RTL, d'Hugo Hamelin. Hommage à Marseille, hommage à Paris aussi, où les admirateurs ont afflué hier rue des Saints-Pères devant l'hôtel particulier où Bernard Tapie s'est éteint, paisiblement selon ses proches. Une famille qui l'a entouré jusqu'au bout à l'image de son petit-fils.
Il a laissé une trace qui est ineffaçable pour toutes les générations au monde. Il a changé l'état d'esprit de la France, il a révolutionné le football. Bah, maintenant il est avec son étoile là-haut. Voilà, c'est juste un jour où on pense très fort à lui.
Le petit-fils de Bernard Tapie au micro RTL de Nathan Bocard. Notez qu'une messe sera également célébrée mercredi à Paris pour Bernard Tapie.
Il est 7h32. On n'en finit pas avec les intempéries. Hein. Les Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge aux pluies et aux inondations.
5 autres départements sont en alerte orange. Le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence et la Haute-Corse. Alerte levée en revanche en Ardèche, mais la vigilance reste de mise, comme l'explique le préfet Thierry de Vimeux.
Pour les gens qui vont se rendre au travail dans le sud des départements ce lundi matin, une prudence accrue parce que les routes seront peut-être un peu moins bien praticable. Pas de dégâts humains. Une personne qui a été portée disparue quelque temps, qui finalement a été retrouvée, une personne âgée qui était en hypothermie réfugiée sous un pont. Puis je complète en disant que les maires de Joyeuse et de Rosières ont ouvert la salle des fêtes de Rosières en l'occurrence pour accueillir quelques personnes en attendant la décrue qui est annoncée, hein, qui est amorcée.
Le préfet de l'Ardèche avec Valentin Boissé. Au 1er novembre, les pneus hiver seront obligatoires dans 48 départements. Information RTL, les ventes explosent. Elles ont été multipliées par 2 au mois de septembre et même par 20 pour les chaînes et les chaussettes à pneus. C'est sans doute la dernière chance de connaître la vérité sur le naufrage du Bugalet de Braise, ce chalutier breton qui a sombré en janvier 2004 au large de l'Angleterre. À partir d'aujourd'hui, la justice britannique se penche sur l'affaire. En France, l'enquête s'est conclue par un non-lieu, mais on sait que le naufrage s'est produit alors qu'un exercice militaire avec des sous-marins était en cours. 5 marins ont péri, dont Georges Lemétayer, le chef mécano du Bugalet. Son fils Thierry attend beaucoup de cette audience.
Il y a des choses, j'en suis persuadé, qui vont remonter, de gens qui se disent ça va envoyer personne en prison. S'il y a une fois dans la vie où je peux le dire, c'est maintenant pendant ce procès. Le juge accepte de reposer toutes les questions, c'est parce qu'il n'évacue pas du tout la piste du sous-marin. Mais un bateau de 24 mètres qui coule en 37 secondes parce que son train de pêche est ensouillé dans le sable, ça n'est jamais arrivé. C'est toujours une affaire compliquée parce que ça met en cause des intérêts stratégiques et militaires. Moi je pense que en tout cas les conditions sont réunies et nous laissent la possibilité d'aller à la vérité.
Propos recueillis pour RTL par Nicolas Bobby. Ça n'était jamais arrivé. Un Français prend ce soir les commandes de la Station Spatiale Internationale. Ce Français, c'est Thomas Pesquet, bien sûr.
C'est comme un bateau, en fait. Il y a un seul maître à bord après Dieu. Quand ça va mal, quand il faut réagir vite, eh ben, c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Sur, par exemple, si on devait faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, eh ben, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. Évidemment, tout le monde est compétent. Il n'y a pas besoin de dire aux gens quoi faire dans un équipage d'astronautes, mais il y a quand même cette dernière couche, on va dire, de prise de décision qui revient aux commandes de la station.
Thomas Pesquet.
Le football, Saint-Etienne a douché Lyon hier en clôture de la 9e journée de Ligue 1.
Avec une égalisation dans les dernières minutes, score final 1 partout, mais les Stéphanois restent lanterne rouge. Avant cela, le PSG a essuyé sa première défaite de la saison, battu 2-0 à Rennes. Angers a battu Metz 3-2. Marseille s'est incliné à Lille 2-0. Victoire de Monaco sur Bordeaux 3-0. Match nul 1 partout entre Lorient et Clermont. Et Nantes l'a emporté face à 3-0. L'autre événement sportif du jour de ce dimanche, c'était le Paris-Roubaix, pas d'aujourd'hui. Coup d'essai, coup de maître, pour sa première participation, c'est l'Italien Sonny Colbrelli qui l'a emporté dans une édition qui méritait plus que jamais son surnom, l'Enfer du Nord. C'était dantesque.
Merci Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 donc pour la face cachée de la Une.
Oui, et puisqu'on parle du Paris-Roubaix, nous verrons que l'être humain est en train d'atteindre ses limites sportives. On ne bat plus de records, Yves.
Et dans un instant, François Langlais revient et s'intéresse sur la carrière hors norme de Bernard Tapie dans les affaires.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, il n'est pas fréquent que la disparition d'un chef d'entreprise suscite autant d'émotions que celle de Bernard Tapie. Comment l'expliquer?
Bien sûr, parce que l'homme a été plus qu'un chef d'entreprise. Parce qu'il a montré un courage remarquable face au cancer. Mais pas seulement. Tapie était aussi, et peut-être d'abord, l'incarnation d'une réussite individuelle qui ne doit à rien au milieu, au diplôme, au réseau, mais tout au tempérament, quand il reprend ses entreprises au bord de la faillite comme Terraillon. Il émerge pendant les années 80, justement dans ces années qu'on appellera plus tard les années Tapie, au moment où la vision d'une société dominée par la lutte des classes s'efface au profit d'une société plus morcelée, où c'est le talent individuel, l'énergie, la volonté de réussir qui font la différence. C'est l'époque où les Français découvrent l'entreprise sous un jour nouveau, celui du projet, de la réussite. C'est juste avant la seule période libérale qu'ait connue le pays, sous le gouvernement Chirac 86-88, directement inspiré du programme Thatcher, qui est mis à l'époque en œuvre outre-Manche, avec privatisation importante, développement des marchés financiers, etc.
Alors, ce n'est pas le seul homme d'affaires français de cette époque à réussir, loin s'en faut.
C'est vrai, il y a d'autres figures. Bernard Arnault, c'est la même époque. François Pinault, Vincent Bolloré aussi. Et ces trois-là réussiront d'ailleurs dans les affaires bien mieux que Tapie. Bah oui. Ils sont aujourd'hui multimilliardaires, ils sont à la tête d'empires industriels considérables. C'est pas le cas de Tapie. Mais non seulement Tapie était parti de bas, ça n'est pas le cas d'un Arnault ou d'un Bolloré, mais il n'a jamais adopté les codes des riches. Il n'a jamais fait partie de l'establishment. Il est toujours resté chez lui à côté Robin des Bois, qui entre par effraction dans le camp des possédants et conserve une façon de parler directe qui tranche avec les habitudes des puissants. Un Robin des Bois qui d'ailleurs redistribue le produit de ses larcins en finançant un club de foot populaire, l'OM, ou en faisant de la politique comme éphémère ministre de la ville au début des années 90.
J'avais pas vu le côté Robin des Bois jusqu'ici. Mais comment un peuple aussi foncièrement égalitaire que les Français a-t-il pu finalement s'attacher à un homme qui promeut la réussite individuelle et qui avait son yacht?
Ben justement parce que cette réussite était transgressive et qu'il s'agissait d'une sorte de vengeance sociale par procuration. La meilleure preuve qui n'a fait que confirmer l'image positive de Tapie, c'est qu'il a finalement été rejeté et par le milieu politique et par le monde des affaires. L'affaire Adidas l'illustre bien. En 92, Tapie cède Adidas, cette marque de vêtements de sport, au Crédit Lyonnais. À l'époque, c'est une banque publique qui la revend plus tard avec une considérable plus-value au moyen d'un montage qu'on peut qualifier charitablement d'obscur. L'homme d'affaires estime alors avoir été floué. Suivront 30 ans de bagarres judiciaires et d'innombrables retournements où interviendront les juges, les politiques. et le monde des affaires. Avec en jeu plusieurs centaines de millions d'euros que Bernard Tapie a fini par recevoir en compensation, la prochaine étape judiciaire, pénale, de cette rocambolesque affaire, elle devait avoir lieu dans deux jours, le 6 octobre, après un appel fait par le parquet pour contester un jugement qui innocentait totalement Bernard Tapie. La suite civile de cette affaire continuera, bien sûr, et c'est la succession Bernard Tapie et ses entreprises, et ce qu'il en reste, qui feront face.
Merci beaucoup François Langlais. Pour l'Anglais Con, on vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Alors est-ce que Bernard Tapie est passé à côté d'un destin politique? Eh bien nous verrons cela avec Jean-Louis Borloo, son complice de quelques 40 années.
A tout de suite avec Jean-Louis Borloo sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Borloo.
Bonjour Jean-Louis Borloo.
Bonjour.
Et merci d'être là ce matin sur RTL pour rendre hommage à Bernard Tapie. 45 ans de complicité. Bernard Tapie, vous l'appeliez mon frère, c'est ça? Vous étiez le petit frère de Bernard Tapie?
Oui, je ne sais pas quels étaient les sobriquets qu'on s'attribuait. Tantôt il disait, mon petit père, comment tu vas? Vous voyez, bon, bref, c'est de la tendresse.
Qu'est-ce qui vous bluffait chez lui?
Boule d'amour, boule d'amitié, chaleur, pudeur. C'est que c'est un des hommes les plus pudiques que j'ai rencontrés. Il cachait ses sentiments. Il extériorisait tout le reste, sa passion, son envie de faire, embarquer les autres, rêver. Mais c'est un type d'une grande pudeur. C'est qu'il avait toujours une croix dans sa veste.
Il était très croyant.
Je ne vais pas parler à sa place, mais en tout cas, il y avait quelque chose du charbonnier. Cette fois, du charbonnier chez Bernard. Et c'est un type pudique. Il faisait des trucs en secret incroyables.
Par exemple.
Cette petite Zora franco-marocaine atteinte d'un cancer qui a vécu chez Bernard et Dominique jusqu'à la fin. Vous vous souvenez de l'émission Ambition?
Tout à fait.
C'était un truc incroyable qu'on avait fait. Enfin, c'est lui qui a fait. Lui était toujours pilote et moi copilote. Et à l'époque, pour faire cette émission, il avait obtenu un cachet gigantesque. Eh bien, après l'émission, il a dit à Marie-France Brière, cet argent, tu le donnes à la Fondation Abbé Pierre. Mais je peux pas, c'est pas la comptabilité. Tu te démerdes. Voilà. C'est allé à la Fondation Abbé Pierre. Donc c'est ce Bernard Tapie, au-delà de tout le reste, que j'aime, que j'ai aimé, que j'aime et que je continue à aimer.
C'était une personnalité romanesque?
Oui, je sais pas bien ce que vous mettez derrière ce mot, mais c'est en tout cas c'est une légende. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut avoir tous les talents du monde, et Dieu sait s'il en avait dans presque tous les domaines du monde. Il y a une force particulière qui fait que vous faites ce qu'il fait, c'est l'amour et la générosité. Parce que regardez bien, c'est pas lui qui pédalait pour gagner le Tour de France ou être champion du monde. C'est pas vraiment lui qui skippait pour le record de la Tour. C'est pas vraiment lui qui avait chaussé les crampons pour la finale, etc., etc. Mais c'est lui, c'est grâce à lui que cette énergie et ces âmes se déployaient. Et ça, c'est cette capacité thermique d'échange à l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Qu'est-ce que vous dites, ceux qui disent qu'il y avait Tapie le flamboyant et puis Tapie un peu le voyou, l'homme aux zones d'ombre, aux déboires. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Eh bien, je crois vous avoir répondu en vous donnant des zones de grande lumière au-delà du flamboyant.
Jean-Louis Borloo, Bernard Tapie a été ministre de Mitterrand. Il était ami de Nicolas Sarkozy. Où allait sa fidélité politique en fait? Il était de gauche, il était de droite?
Il était du côté des petits, des obscurs, des sans-grades, comme disait Victor Hugo, prêt à en découdre. Vous savez, au fond, l'histoire des... Alors, c'est pas le parfait gendre, mais c'est un parfait père et c'est un parfait ami. Mais est-ce que vous avez... Ces 25 dernières années, il n'a cessé d'être harcelé par des petits hommes en gris, bien caché dont on ne connaît pas vraiment le visage. Je ne vous parle pas de la justice qui est saisie, c'est autre chose. Je suis heureux d'ailleurs parce qu'il part innocenté. La dernière décision de justice pénale, la plus grande, un jugement extraordinaire de précision lui a rendu son honneur.
Et vous parlez de qui alors?
Je parle des petits hommes en gris, du Crédit Lyonnais, de toutes les organisations. 25 ans pour être lavé, 25 ans. Il luttait contre deux cancers de merde et on continuait jusqu'à la fin à le harceler.
Peut-être certains se souviennent de la une du Nouvel Observateur du 25 janvier 1990. Il y a cette photo d'un Bernard Tapie en chef d'État posant dans la bibliothèque de l'Élysée avec ce titre « Tapie, l'homme qui veut être président ». Tapie président, Jean-Louis Borloo, pourquoi ça ne s'est pas fait?
Je veux dire pourquoi. D'abord, je ne sais pas si ça se serait fait et si ça aurait été bien pour lui ou pour le pays. Mais je peux juste vous dire, c'est que quand vous avez des rêves comme cela, pourquoi pas à vous mettre au service de votre peuple. Mais seulement pour le faire, faut y aller en direct. Et je me souviens de cette conversation à Orly, on prenait notre petit ticket, là, Air Inter, on l'appelait à l'époque. Et je dis, mais pourquoi tu passes par la case régionale, machin, où tu veux parler au peuple et tu t'organises? Sinon, ils te couperont les jarrets avant que tu attaques le début de la montée de l'Himalaya.
Mais ça veut dire qu'il croyait pas vraiment à son moment politique? Il croyait pas qu'il avait un destin politique?
Mais Bernard s'est jamais senti un surhomme, hein, un surmec ou un destin. Il a été de passion folle en passion folle. Et ses passions, il est allé jusqu'au bout. La première, sa femme.
Dominique.
Et ses enfants. Et ses deux chiens. Vendredi, quand me serrait la main. Et Dominique était là, l'embrasser, bon, bref. Et il a réclamé ses chiens. Ça m'a fait bizarre.
Pourquoi?
Parce que je sentais que, pour la première fois, il percevait que la maladie allait gagner.
Jean-Louis Borloo, je vous ramène maintenant à la politique, si vous le permettez, parce que vous avez été plusieurs fois ministre, dont ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'était entre 2007 et 2010. Les prix de l'énergie s'envolent, l'impact est fort sur le pouvoir d'achat des Français. Geler les prix du gaz, comme vient de le décider le gouvernement, c'était finalement la meilleure solution?
Vous savez que je ne participe plus au débat public, mais je veux dire seulement deux choses. La première, c'est que l'énergie est une ressource fiscale gigantesque. C'est la première, ou à peu près. Il faudrait qu'on découple un peu la recette et le prix de l'énergie. Voilà. La deuxième, c'est que le grand combat, c'est pas la production, c'est le stockage d'énergie. Voilà. Le stockage, le numérique, la gestion énergétique des bâtiments, c'est le sujet central. On peut gagner 50% d'efficacité globale. On peut donc réduire les prix. Et malheureusement, on est sur un débat un peu binaire.
Mais quand on voit qu'on dépend à 40% du gaz russe, est-ce que vous pensez que le nucléaire est un investissement d'avenir?
La question du nucléaire ne se pose pas comme ça. La question, c'est est-ce que l'EPR est une bonne réponse? L'EPR est extrêmement coûteux. Mais vous avez d'autres nucléaires. D'ailleurs, je rappelais tout à l'heure que le nucléaire français, qui était une forme d'EPR il y a 40 ans, en fait, on avait pris une licence Westinghouse parce qu'elle était plus petite, plus robuste, duplicable et simple.
Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo.
De Merci. La tendresse, boule d'amour, boule d'amitié. C'est en ces termes que Jean-Louis Borloo évoque son ami Bernard Tapie sur RTL. Une capacité thermique, nous a-t-il dit. Il était du côté des petits et des humbles. Il a été de passion folle en passion folle. L'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site RTL.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous sommes avec Philippe Cavrivière sur RTL.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Mais oui, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour cher Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
On a donc appris hier la triste nouvelle de la disparition de Bernard Tapie.
Donc Marthe Mercadier, Jean-Paul Belmondo, maintenant Bernard Tapie. Attention, les personnes âgées connues. Mon Michel Drucker est en burn-out, dommage. C'est rouge dans le sens des départs, très bien. Mais essayez d'étaler un peu dans le temps vos décès. Vous n'êtes pas à deux jours près non plus. laissez mon mich-mich souffler. Alors, on adore tous Michel Drucker ici. Hein. J'ai quand même remarqué une chose. Quand une personnalité décède, Michel dit très souvent « Je suis passé le voir la semaine dernière. Il allait mal. Il était fatigué. » Si Drucker sonne chez vous, n'ouvrez pas. Hein. C'est peut-être lui la grande faucheuse. Lynn Renault, si tu nous entends, double tour le petit Judas.
Ah là là, bon, c'est rouge dans le sens des départs. Oui. Alors, on revoit depuis hier matin toutes les images fortes de la vie de Bernard Tapie.
Oui, bien sûr, la victoire de l'OM en 93, Ambition, les émissions de TF1, Claude Lelouch, le Tour de France, le théâtre, et également des images plus douloureuses de lui, courageux et fatigué au journal de 20h. Mais l'image qui m'a fait le plus de peine de Bernard Tapie, c'est quand il est en débardeur rouge, survêt en caouet vert, entre Véronique et Davina, et qui fait tout le YouTube. Oh, ça c'est une image atroce, hein. C'est les années 80, c'est... Ah, c'est dur.
On associe souvent Bernard Tapie à son épouse Dominique, qui a toujours été à ses côtés.
Ça, par contre, c'est une image magnifique. Quand il gagne la Ligue des Champions, il saute dans les bras de sa femme et ils sont en larmes tous les deux. Il a eu une seule femme toute sa vie. Ça, c'est émouvant. Moi, avec son pognon et un bateau de 72 mètres, je peux te dire qu'elle aurait dégagé. Fissa, maman. Oh, j'aurais été actif sur le marché des transferts de l'Argentine, de la Brésilienne. Hein, François Langlais, comme tous les hommes d'affaires qui réussissent, hop, ça dégage tous les ans. En tout cas, Tapie est associé pour toujours à la ville de Marseille. Je me faisais une réflexion en un an. Pape Diouf, Philou Sport, René Malville et maintenant Tapie. Je pose la question, est-ce que Dieu est supporter du PSG? Est-ce que Dieu est actionnaire des Qataris? Peut-être Dieu est musulman. Attention, je jette un pavé dans la mare, ça ne va pas arranger tout le monde.
Un gros pavé dans la mare. Alors, depuis hier, les chaînes repassent aussi en boucle les débats musclés, notamment avec Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie.
Il était bon, mon Jean-Marie.
Ne me menacez pas, monsieur Tapie, il vous encuirait.
J'adore, il vous encuirait. Jean-Marie Le Pen a déclaré, vous savez, il a déclaré le discours d'Éric Zemmour est rafraîchissant. Et c'est le mot qu'on cherchait tous pour le qualifier. On le connaît par cœur et on n'a pas... Il est rafraîchissant, mon Eric, c'est ça. C'est un petit brumisateur Evian. C'est tout lui, ça. Evian Vichy, n'est-ce pas? Je me suis trompé de station thermale.
Oui, c'est ça, plutôt Vichy.
En tout cas, le décès de Bernard Tapie avant celui de Jean-Marie prouve que ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Notre Jean-Marie est là pour un bon moment. Bernard Tapie meurt donc à l'âge de 408 ans. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, on est plus sur du 408 ans parce qu'il a eu pas mal de vie. Entre Malville, Pape Diouf et Tapie, le paradis sera désormais un peu le vélodrome. Ça va leur faire tout drôle à Jean Dormesson et Gisèle Halimi d'entendre les paris en tant que... Merci Bernard pour la Champions League et allez l'OM, un peu de Champions League.
Saint-Germain, je peux vous dire qu'on est fiers pour eux et on est fiers pour lui.
Bah, c'est fair play, Yves.
Absolument. Merci beaucoup, Philippe Cavrivière. On vous retrouve sur le site rtl.fr comme chaque matin. On va tout de suite faire un point météo avec vous, Louis-Baudin.
Justement, et à Marseille, oui, il pleut beaucoup. Hein. Il va pleuvoir tout au long de la journée. Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge. Et attention, hein, s'il y a des petites périodes d'accalmie, c'est tout au long de la journée qu'on va pouvoir avoir ces pulsions orageuses qui remontent de Méditerranée avec donc des quantités qui pourraient être préoccupantes en fin de journée. D'où ces vigilances donc maintenues toute la journée. Attention. S'il y a quelques petites accalmies, il faut pacifier, ça pourra reprendre. Des averses également plus généralement dans les régions de l'Est, hein, entre quasiment les Pyrénées orientales jusqu'à l'Alsace. Et puis ailleurs quand même, belle accalmie hein, de l'Île-de-France jusqu'au sud-ouest. On aura plutôt du temps sec et ensoleillé, sauf en bord de mer, près de l'Atlantique, sur le littoral de la Manche, où là nous aurons quelques averses. Les températures, on sera entre 14 et 16 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, 17 à 20 degrés ailleurs, et encore 24 à 31 entre la Côte d'Azur et la Corse.
A tout de suite pour le journal de 8 heures. RTL, il est 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Nous allons bien entendu continuer cette matinale consacrée à Bernard Tapie, disparu d'un cancer hier à l'âge de 78 ans.
Il a choisi Marseille, sa ville de cœur, pour être inhumé. Ce sera vendredi. Avant cela, un hommage lui sera rendu au stade Vélodrome. Hugo Hamelin nous attend sur place. Un hommage à la hauteur sans doute de cette fascination qu'il aura exercée sur de nombreux Français jusqu'au bout, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Nous allons y revenir. À suivre également dans ce journal, la fin du masque à l'école dans une cinquantaine de départements dès ce matin. Un projet de loi contre les thérapies de conversion, ces pseudo-remèdes qui prétendent guérir les homosexuels. Et puis Emmanuel Macron dans un refuge pour animaux, ce lundi, caresser les bêtes à 200 jours de la présidentielle. Ce n'est jamais mauvais pour la popularité.
Moi, je me suis laissé surprendre. Pardon. Cyprien Signy, on vous retrouve dès la fin du journal. Ouf, ouf.
Avec un hommage à Bernard Tapie, enfin à Nanar et à son style inimitable.
Miaou aussi.
RTL Matin.
On m'a donné un point de chute, je connais pas les gens qui y sont. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais y travailler très fort.
Cette voix, évidemment, c'est celle de Bernard Tapie. Et ce point de chute, eh bien, c'est Marseille. Nous sommes en 1987, une ville que l'homme d'affaires, patron de l'OM, qui s'apprête à devenir député, connaît encore mal. Il apprendra à la découvrir, à l'aimer. Son nom en deviendra indissociable à tel point qu'il a choisi d'y être enterré vendredi prochain et qu'un hommage lui sera rendu après-demain au Stade Vélodrome. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Le vœu des supporters a donc été exaucé. Bernard Tapie repassera une dernière fois par le stade de son cœur.
Ouais, près du banc de touche qu'il a occupé pendant 7 ans, près des vestiaires où il a poussé de mémorables coups de gueule, Bernard Tapie va revenir jeudi au Vélodrome où une chapelle ardente sera installée. Deux options, un salon discret où défileront les supporters endeuillés ou la pelouse pour un hommage un peu plus fou, un peu plus démesuré. C'est en tout cas ce que souhaite Zara, elle aussi marseillaise d'adoption et qui prend son café ce matin au bar de la Croix-Rouge.
Je pense qu'il est un peu comme moi. Moi, je suis venue par rapport à l'OM aussi. Donc, Marseille, l'OM, le foot. Donc, ça, c'est un hommage. Hein. Je pense que c'est la place par où il doit passer avant de partir définitivement. Moi, je pense qu'ils vont le mettre sur la pelouse, hein, puisque tout le monde veut lui dire un dernier au revoir, je pense.
Celui qu'on appelle le boss ici sera ensuite inhumé vendredi au cimetière de Mazargues à portée de papinade du stade Vélodrome.
Hugo, un mot sur un autre supporter de l'OM, un peu particulier celui-ci, puisqu'il s'agit du président de la République, Emmanuel Macron, qui publie carrément ce matin une tribune dans la Provence, journal ayant appartenu à Bernard Tapie, pour lui rendre hommage.
Ouais, c'est une lettre que l'on découvre au fil des 48 pages du supplément spécial publié par le journal régional. Un Tapie décrit par le président de la République comme le visage de la victoire, une rage de vaincre, un bagout. Pas un mot par contre sur ses ennuis judiciaires, ses affaires, peut-être pour ne pas se mettre à dos le peuple marseillais à quelques mois désormais de l'élection présidentielle.
Merci Hugo Hamelin en direct de Marseille.
C'est une semaine d'hommage, hein, on l'aura compris, un peu hors norme qui se prépare à Marseille où Bernard Tapie a donc souhaité être inhumé.
C'était son choix et sa famille le respectera. La famille, le clan Tapie réuni depuis hier autour de sa femme Dominique et de ses enfants. Parmi eux, Stéphane Tapie qui a accepté de se confier pour RTL et pour M6 au micro de Stéphane Tortora. Le fils aîné très touché par les nombreux messages de soutien reçus.
Énormément de fierté, beaucoup, beaucoup de bien au cœur. Mais en même temps un peu gêné parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser aux gens qui vivent la même chose et qui n'ont pas notre chance d'avoir tous ces témoignages uniques et magnifiques. Voilà, très touché, mais on a vraiment envie de le partager avec ces gens qui vivent la même chose et qui sont dans l'anonymat.
Son épouse doit être particulièrement bouleversée.
Forcément, elle a passé 50 ans de sa vie à ses côtés, donc c'est pas rien. Et puis à ses côtés à lui, encore moins. Donc voilà, aujourd'hui le clan se ressoude autour d'elle.
Le fils de Bernard Tapie qui répondait à Stéphane Tortora pour RTL et pour M6.
La famille qui a donc promis hier de poursuivre d'une manière ou d'une autre ce combat contre la maladie, le dernier combat livré par Bernard Tapie.
Et une maladie qu'il n'a d'ailleurs jamais cherché à cacher ni à minimiser.
La méthode Coué, ça consisterait à dire « moi j'ai le moral, j'ai la pêche, etc. » Ça, ça marche pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule, c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui donne à vos défenses le moyen de combattre cette saloperie. Et c'est un vrai combat, c'est un truc à mort. Moi, je le traite de tous les noms, mon cancer. Je me lève le matin avec envie de lui péter la gueule.
Et il viendra régulièrement donner des nouvelles à la télé, à la radio, quel que soit son état de santé d'ailleurs. Cheveux blancs, amaigris, la voix quasi éteinte. Jusqu'au bout, il aura mené cette lutte, de quoi forcer l'admiration de son médecin, le professeur Eric Van Cutsem, était l'invité des petits matins de RTL.
C'était un battant jusqu'au dernier moment. Il se rendait pas. Il voulait toujours avoir un petit espoir pour voir un peu une lumière dans le tunnel. Il savait bien qu'on pouvait pas guérir son cancer, mais il voulait pas l'entendre qu'il y avait une fin. Il voulait jamais se rendre. Se rendre était un mot qui n'était pas dans son dictionnaire.
Eric Van Cutsem, le président de la Ligue contre le cancer belge et qui suivait Bernard Tapie, interrogé ce matin par Jérôme Florin.
Et parmi les nombreux hommages qui affluent hein, depuis hier, beaucoup saluent le parcours d'un touche-à-tout parti de rien ou presque.
Et qui parviendra en quelques années à exceller dans les affaires. Chanteur, entrepreneur, ministre, acteur, patron de presse, le sport, avec le foot, le cyclisme également, malgré une vie ponctuée de zones d'ombre et de condamnations judiciaires, Tapie fascine les Français qui pardonnent quasiment tout à celui dont l'ambition apparaît parfois démesurée, peut-être parce qu'il ne s'en est jamais excusé.
Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Or pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
et de l'argent, il en gagnera beaucoup, beaucoup. Car si son nom restera longtemps associé à quelques-unes des plus grandes réussites industrielles de ce pays, il le sera aussi aux affaires et à la prison. Reconnu coupable de corruption dans l'affaire du match truqué entre l'OM et Valenciennes, Bernard Tapie passera 6 mois en détention. C'était en 1997, Jean-Alphonse Richard.
Ce jour-là, ce 3 février 1997, il dit tout simplement au revoir à Dominique, rue des Saints-Pères. Il prend sa petite valise et puis il va se constituer prisonnier. Il va être incarcéré à la prison de la Santé, puis ensuite à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Au total, il va passer 165 jours en prison et c'est une expérience qui va beaucoup le frapper. Et le marquer, il va dire « La première nuit, j'étais à plat ventre en train de pleurer sur mon lit parce que c'était trop dur, c'était épouvantable. » Il va raconter à ses visiteurs. Il va enfin sortir de prison 165 jours après. Quelqu'un à moto viendra le chercher d'ailleurs à la prison et il va disparaître comme ça. Il n'est plus rien à ce moment-là. Il a été le matricule 265-449G pendant ces quelques semaines. Plus personne ne lui fait confiance. Il n'est plus du tout le magnifique. Les affaires se sont arrêtées. Et c'est grâce finalement au cinéma, à ce moment-là, qu'il va pouvoir rebondir.
Jean-Alphonse Richard, et puis hasard du calendrier, c'est après-demain, mercredi, que la Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. La mort de Bernard Tapie hier matin met officiellement un terme aux poursuites.
Notre invité dans quelques minutes sera donc Éric de Montgolfier, ancien procureur de Valenciennes en poste au moment donc de l'affaire VAOM. Il est 8h07, les intempéries à présent avec cette alerte rouge qui concerne les Bouches-du-Rhône.
Alerte
Dominique.
Pluie, inondation, les autorités craignent de nouveaux débordements après les trombes d'eau tombées ces dernières heures et celles encore attendues. Hier, le Gard et la Lozère ont une nouvelle fois été durement touchés par les crues. Et ces images, toujours les mêmes, de ces rues aux allures de torrents, Patrick Tégéraud.
Oui, 200 pompiers étaient engagés hier soir pour faire face aux pluies diluviennes et par chance, il n'y a pas eu de gros dégâts. Une centaine d'interventions tout de même, en particulier autour de Nîmes, où des routes submergées ont piégé une quarantaine d'automobilistes qui ont dû être mis en sécurité par les pompiers. Dans les Cévennes, plusieurs habitations ont été inondées, en particulier à Chambaud-Rigaud, et un camping a dû être évacué par précaution. Il y a eu aussi de nombreuses coupures d'électricité. Ce matin, il reste quelques routes coupées par de profondes flaques d'eau. L'électricité n'a pas encore été rétablie partout. Les sapeurs-pompiers ont passé une nuit calme. Ils vont se remettre désormais au travail pour une trentaine de missions secondaires, comme des épuisements de caves, des infiltrations, des chutes de branches sur les câbles électriques.
Patrick Tégéraud.
C'est donc à partir de ce matin que les élèves de primaire vont pouvoir tomber le masque dans 47 départements.
Qui est concerné? Faut-il craindre une reprise des contaminations? Vos questions et les réponses tout de suite de la brigade RTL. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Alors qui est concerné par cette mesure?
Donc les élèves de primaire à partir de 6 ans dans 47 départements où l'incidence est stabilisée en dessous de 50 pendant 5 jours consécutifs. Seuls les enfants sont concernés, hein, bien sûr. Pour tous les adultes, le masque reste obligatoire.
Question, est-ce une bonne idée?
Alors pour les instituts, oui, évidemment. Oui. Pour les enfants, oui, évidemment. Quel soulagement et quel retour à la vie normale. C'est plutôt le timing, si vous voulez, qui interroge les spécialistes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Une incidence à moins de 50, ça ne veut pas dire que le virus ne circule plus. Il y aura donc des cas positifs autour des enfants, d'autant qu'on entre dans l'automne. Et en plus, on ne connaît pas le comportement du variant Delta en automne et en hiver. Autre interrogation, les tests ne seront plus remboursés pour les non-vaccinés à partir du 15 octobre. On aura donc une moins bonne vision de l'épidémie, ce qui n'est jamais très bon.
Il y a donc un risque qu'elle reparte cette épidémie?
C'est possible, mais on a de la marge. Le taux de reproduction du virus aussi entre 0,8 et 0,9. Nous ne sommes donc pas au pied du mur. D'autant que contre toute attente, contrairement à toutes les prévisions, l'incidence baisse fortement à l'école depuis la rentrée, moins 26% encore la semaine dernière pour les 0,9 ans. Personne ne l'avait imaginé. Deux conditions indispensables pour que cette mesure dure dans le temps. L'aération, encore et toujours. Et surtout, tester le plus régulièrement possible les enfants, une fois par semaine, préconise le conseil scientifique. C'est le point faible de l'école depuis le début de l'épidémie.
La brigade RTL ce matin avec Sophie Orange. Merci Sophie.
Des thérapies qui prétendent guérir les homosexuels à coups de prière et d'exorcisme. Déjà le mot guérir devrait être remis en question. Eh bien, les députés veulent les interdire, on en parle dans un instant.
RTL Matin.
Tenza sur RTL. C'est une pratique qui semble sortie d'un autre âge. Une proposition de loi sera présentée demain à l'Assemblée pour interdire les thérapies de conversion.
Il s'agit de remettre les homosexuels sur le droit chemin, selon les termes généralement employés. Le texte crée un délit passible jusqu'à 3 ans de prison. Valentin Boisset, vous avez rencontré un jeune homme qui a subi l'une de ces thérapies.
Oui, pour Benoît, tout a commencé à la fin d'un repas de famille à 11 ans. Il parle de son homosexualité, puis ses parents lui font écrire une lettre de motivation. Il doit indiquer vouloir en guérir guérir. Quelques mois plus tard, il fait un sac de voyage.
De 15 à 18 ans, j'ai subi ces thérapies.
Et se retrouve dans un monastère.
On avait une cellule, des temps de messe, des temps de suivi avec un guide. Ça parle de masturbation, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, des sujets intimes. Ils viennent planter des graines. Tu veux pas finir comme ça quand même, en présentant l'homosexualité d'une manière extrêmement dégradante. Ils m'ont appris à me détester. J'avais une homophobie intériorisée extrêmement forte. Plus les sessions passaient et plus je me sentais mal.
Benoît finit par s'en extraire seul. Difficile de chiffrer ce phénomène en France en une semaine. J'ai recueilli 10 témoignages émanant de mouvances catholiques ou évangéliques. Certains vont jusqu'à l'exorcisme. Pour Marie Drillon de l'association de défense de victimes de sectes, ces témoignages sortent difficilement.
S'il y a des préjudices ou des choses trop violentes, ils vont plutôt aller vers les autorités du mouvement.
La plupart de ces affaires restent donc des secrets bien gardés au sein des organismes qui pratiquent ces thérapies.
Valentin Boisset. Cette information RTL qui concerne les ventes d'équipements de neige pour les véhicules, ils seront obligatoires dès le 1er novembre dans 48 départements. Eh bien, sans surprise, les ventes explosent. Elles ont été multipliées, écoutez bien, par 20 le mois dernier.
Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui dans un refuge pour chiens et chats en Haute-Saône.
Absolument, à l'occasion de la Journée mondiale des animaux. Une visite que certains pourraient qualifier d'anecdotique, à tort. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Car les chiens et les chats à 200 jours de la présidentielle, c'est incontournable.
Et oui, la protection des animaux est devenue un vrai sujet politique. Figurez-vous qu'en 2019, aux élections européennes, le tout nouveau parti animaliste avait recueilli 490 000 voix. C'était à peine moins que le parti communiste. Emmanuel Macron veut donc mettre en avant sa politique de protection des animaux. Il y a 20 millions d'euros du plan de relance qui sont consacrés à la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie, notamment pour aider les refuges, comme celui qu'il va visiter tout à l'heure, à faire face aux 100 000 abandons annuels. Un proche du président le dit, c'est l'un des sujets les plus concernants pour les moins de 25 ans, toutes catégories sociales confondues. Bref, un sujet à ne pas négliger pendant la campagne, a fortiori parce qu'Emmanuel Macron courtise très régulièrement les chasseurs. Attention à garantir le et en même temps.
Merci Aurélie Herbemont. Le football et ce coup dur hier soir pour les Lyonnais rattrapés à la 95e minute par Saint-Etienne sur pénalty, score final 1-1. Un peu plus tôt, le Paris Saint-Germain avait été battu pour la première fois depuis le début du championnat 2-0 à Rennes. Paris qui reste néanmoins leader devant Lens, 2e et Nice, 3e du classement.
C'était le journal de Dominique Tenza. Dans un instant, on surfe avec Cyprien Signy et bien entendu Bernard Tapie.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Signy.
Il est 8h18, Cyprien, vous surfez avec le franc-parler et la gouaille de Bernard Tapie ce matin.
Et oui, car depuis hier, on vous parle du foot, des affaires, des ministères. Mais à la base de tout ça, il y a Nanar. Pas Bernard Tapie, non. Celui qu'on a envie d'appeler Nanar pour sa façon de parler, son style. Celui qui, en 1988, déboule avec sa gouaille dans la vie politique.
Les autres, ils passent leur temps à dire « aimons-nous les uns les autres », il faut reculer. Ils parlent, ils bavassent. Alors ça, ici, il y en a des parleurs.
Et maintenant, il y a Nanar qui parle comme les vrais gens, avec des vrais mots. Du coup, parfois, les mots, ben, ils sont gros.
C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds.
Et des mots comme ça, à part Nanar, personne n'avait osé à l'époque. Alors évidemment, les guignols s'en étaient emparés. Hein.
C'est la combi, la Nanar, la portée à Richard.
Caricaturant le personnage à l'extrême.
Sévèrement burné, le Nanar. Et c'est ça qui me reste, bonhomme. La burne. L'autre est hypothéqué.
Sauf que dans sa gouaille et avec sa répartie, le vrai Bernard Tapie pouvait largement dépasser sa marionnette, comme ce matin-là sur RTL.
Et ça, j'en ai rien à foutre. Ça fait exactement 25 ans que vous me regardez dans le pour savoir si j'ai un polype.
Façon joliment imagée de dire qu'il aimait bien, il aimerait bien qu'on lui lâche un peu les baskets. Bon, il pouvait aussi être beaucoup moins imagé, le langage du nanar avec les journalistes. Hein. Beaucoup plus cash, quoi.
Ça fait 15 ans que j'ai raison, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison, parce que depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Bon. Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Plus je sens que ça vous emmerde, et plus ça me fait plaisir. Non, mais je sais que ça vous fait chier, je sais bien. Ça.
Et surtout, ça le faisait marrer, car il avait aussi envie de plaire, le nanar, envie d'être un exemple.
J'espère que les gosses qui nous regardent, ils se disent, merde, ce mec, il a commencé à zéro, et là, j'espère qu'ils vont se dire,
pourvu que ça m'arrive à moi aussi. Et non pas, bah, comme c'est sale, comme c'est moche, c'est dégueulasse. Ah. Moi, je suis un franchouillard. J'aime ce pays. Quand ils m'ont ruiné, je suis quand même resté là.
Eh oui, plutôt sympa, quoi. Enfin, il avait quand même ses limites. Fallait pas trop le chauffer non plus. Comme ici, avec Éric Zemmour, tendez bien l'oreille.
Excuse-moi, ne dis pas ça, parce que c'est de la connerie.
Mais c'est là,
je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu-blanc-rouge jusqu'à la fin de tes jours. Je crois que le mec le plus malheureux, c'est toi.
Mais vous avez 30 ans de retard.
Tu vas mourir sans savoir.
Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard.
Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une. Si je suis un ringard.
Je vais me lever, je vais t'en mettre une, dit-il, oui. Fallait pas le traiter de ringard, le nanar. Puis fallait pas trop l'embêter non plus. Même malade, il y en avait encore sous la semelle.
Vous êtes qui pour me parler comme ça ?
Je suis un journaliste de rue. Vous
êtes surtout un connard, voilà. C'est quand même.
Voilà, hein. Et ce matin, on gardera.
Il en a collé une, là ?
Non, non, il a fermé la porte au nez.
Ah bon, pardon.
Et ce matin, on gardera de notre nanar cette formidable leçon de vie qu'il distillait avec bonheur sur le plateau de France 5 encore récemment.
Vous savez, les imbéciles ont une vertu, c'est qu'ils supportent pas que vous ne sachiez pas que c'est des imbéciles. Ouais, ils veulent que vous sachiez que c'est des cons, donc ils s'arrangent pour vous le montrer.
Alors pour tout ça, et pour le 26 mai 93, la Coupe d'Europe, évidemment, ce matin, on a juste envie de dire merci Bernard.
On ne lui retirera jamais. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir dès 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
L'info autrement.
Dans un instant, c'est l'ancien procureur de Valenciennes, Éric de Montgolfier, qui sera avec nous. Nous allons revenir sur le plus grand scandale en fait de corruption du football français, le match Valenciennes-Olympique de Marseille du 20 mai 1993. Une autre facette des activités de Bernard Tapie.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h24. Bonjour Éric de Montgolfier.
Bonjour monsieur.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin sur l'antenne d'RTL. Ancien procureur de Valenciennes, vous étiez en poste au moment de l'affaire Valenciennes-Marseille. Je vous sais pudique et réservé, mais très simplement j'ai envie de vous poser cette première question. Quel souvenir conservez-vous de Bernard Tapie, Éric de Montgolfier ?
Un homme entre deux eaux, allais-je dire, lorsqu'il est venu me voir à Valenciennes, poli quand même, un peu manière inhabituelle par rapport à ce qu'on pouvait voir quelquefois, et en même temps plutôt conquérant. On sentait qu'il entrait dans ce bureau comme un dompteur entre dans l'arène avec l'idée qu'il va manger le lion.
Oui, mais c'est vous le lion alors, en l'occurrence.
J'ai eu un peu l'impression que c'était ça, et c'est ce qu'avait dit son avocat d'ailleurs à la fin. Il avait dit qu'il avait l'impression d'avoir assisté à un combat un peu de cette sorte.
Comment on aborde ce genre de... Ce fut votre métier, mais comment on aborde ce genre de personnage dans des circonstances pareilles, avec en plus un poids médiatique qui est absolument incroyable.
Le poids médiatique n'était pas le même à cette époque-là, puisque Bernard Tapie n'avait pas révélé ou fait révéler encore qu'il était venu me voir, puisqu'il était en train de le faire. Oui. Et c'est après que ça a démarré, quand on a su qu'il était venu.
Pardon, je vous ai interrompu.
Oui, non, mais autrement, c'est quelque chose de normal. Enfin, pas normal de recevoir un ancien ministre qui pourrait un jour être mis en cause, ce qui n'était vraiment pas le cas quand il est venu. C'était mon métier. Et puis, franchement, j'avais un avantage certain qu'il ne le connaissait pas. C'est que l'après-midi, on avait découvert 250 000 francs dans la pelouse de la tente de Robert, l'un des joueurs de Valenciennes. Oui. Et que l'après-midi aussi, Boro Primorac était venu me voir pour m'expliquer qu'il avait subi de la part de Bernard Tapie une tentative de subornation de témoins.
Comment qualifieriez-vous a posteriori cette rencontre, cette première rencontre avec lui ?
Inutile. Parfaitement inutile. Pour lui, je pense qu'il venait me convaincre de m'arrêter. Vous voulez m'expliquer le football, me disait-il. Vous savez, les joueurs, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est fragile. Et puis, il fallait que je m'arrête. C'est surtout ça. Il a évoqué les gens qu'il connaissait, peut-être même que nous connaissions, sans me les citer d'ailleurs. Les gens qu'il connaissait, oui. Pardon, monsieur le procureur, je suis en retard. J'arrive de l'Élysée, j'étais avec le président. Voilà, c'est lui qui a planté le décor. Mais il était dans mon bureau, ce qu'il avait oublié, et que ce bureau était un bureau du palais de justice.
Ce que vous décrivez est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est de la tentative d'intimidation assumée.
Non, mais douce.
Oui, ça, j'ai ça bien compris.
Pas...
Oui.
Ça n'était pas grossier quand même. Là, il était hors du rôle, allais-je dire. Ce qui était d'autant plus peut-être révélateur. Mais bon, moi, non, ce qui m'a le, je crois que ce qui m'a le plus distrait, c'était ce « Ah, monsieur le procureur, comment vous, là, dans ce petit tribunal ?» En clair, vous méritez mieux et je peux m'en occuper. C'était pas le premier à me le faire, donc.
Oh là là.
Alors, dans l'affaire Valenciennes-OM, il y a tous les ingrédients pour un procès qui marquera l'histoire judiciaire. Corruption, subordination, mais même l'existence d'une caisse noire. J'imagine qu'on aborde ces dossiers quand même de façon particulière. Le problème d'un magistrat étant de ne pas se laisser déstabiliser. C'est si facile que ça, quand on a un Bernard Tapie en face de soi?
Oui, c'est plutôt stimulant, vous savez, d'avoir quelqu'un qui résiste. C'est pas mauvais, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Moi, je ne me plains pas d'avoir eu Bernard Tapie en face de moi. Je n'ose pas dire comme adversaire, parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est bien d'avoir un justiciable qui a du répondant. Ça vous stimule, ça vous oblige, ça vous contraint même à être attentif, à avoir les yeux ouverts. Et puis, vous savez, ce dossier, c'était une merveille d'information pour le néophyte que j'étais dans le monde du football. Que n'ai-je appris sur les mœurs du football à cette occasion?
Vous dites qu'il avait une vision partiale, ou en tout cas un sens du réel un peu particulier. Que voulez-vous dire par là? Moi, ça me fait sourire parce que j'ai bien une petite idée, mais...
Oui, bon, je crois que chacun a compris ce que je voulais dire. Donc, bah, le mensonge ne lui faisait pas peur, quand même. Contre l'évidence, allais-je dire. Bon, il était innocent. C'était sa position, que voulez-vous que je vous dise. Il fallait bien qu'on fasse avec. Mais parfois, devant la réalité, l'évidence, on se disait quand même, quel foutu menteur.
Il a été placé en détention à l'issue du procès, 165 jours de prison. Oui. Il expliquait que le premier soir sur son lit, il s'était mis à pleurer, tout simplement. Vous avez eu d'autres contacts avec lui par la suite?
Une fois, je crois, oui, une fois, une émission qu'avait organisée Rue Delcrieff sur TF1, oui. Qui m'a laissé un souvenir plutôt amère. L'émission en soi, je n'en ai pas gardé le moindre souvenir de ce qui s'est dit. Ce sont les prémices qui m'avaient choqué, puisque nous étions sur le plateau, installés, rue Delcrieff, entre Bernard Tapie et moi. Et je n'avais accepté que pour essayer de démontrer qu'un procureur, bien qu'il lui fait condamner quelqu'un, pouvait aussi le rencontrer, lui parler, lui serrer la main éventuellement. Oui. Mais là, nous sommes donc tous les trois sur le plateau et Bernard Tapie se tourne vers Delcrieff. Il y avait à côté juste Étienne Moujotte, qui était le directeur général de TF1 à l'époque. Et Tapie de lui dire à Delcrieff, Madame, vos patrons ne vous aiment pas. Je l'ai vu un peu déstabilisé, Delcrieff. Et Tapie, ayant marqué ce point, a voulu enfoncer le clou. Et il a insisté. Non, je vous assure, il ne vous aime pas du tout. Voilà, on sentait bien qu'il avait envie de prendre la main sur le débat. C'était sa façon de le faire, pernicieuse.
Il savait procéder aussi par intimidation. Il était important aussi qu'on vous entende ce matin sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup Éric de Montgolfier d'avoir pris la parole sur notre radio. Je vous souhaite une excellente journée et vous savez que vous y êtes le bienvenu. On va maintenant faire un point sur notre météo. C'est notre météo à 7 jours, Louis Bodin, et elle a des pages et des perspectives tout à fait particulières.
Oui, exactement, et notamment à court terme, il faut se méfier l'après de la Méditerranée avec des averses intenses, orageuses. Alors s'il y a des petites périodes d'accalmie, il faudra pacifier tout au long de la journée, surtout cet après-midi. On peut avoir de fortes intensités de pluie remontant de Méditerranée, donc sur les Bouches-du-Rhône, le Var, mais également sur le Vaucluse ou encore les Alpes de Haute-Provence. Dans toutes les autres régions, on sera quand même beaucoup moins agité, notamment du côté du Languedoc. Hein. La situation est plutôt donc à l'est du Rhône, même s'il y aura encore quelques averses, notamment des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'est. En revanche, ailleurs, plus à l'ouest, le temps sera plus calme et quand même quelques belles éclaircies. Les averses revenant tout de même près de l'Atlantique ou encore sur le littoral de la Manche. Demain, une nouvelle perturbation va traverser toute la France, très active encore, des nuages, de la pluie. Bon, ça ne devrait plus avoir les mêmes intensités dans le sud-est, mais encore des précipitations. Beaucoup de vent dans la moitié nord, 80 km/h sur le littoral de la Manche. Et puis après, à partir de mercredi, quand même, petit à petit, ça devrait s'améliorer. Il devrait y avoir de la neige mercredi dans les Alpes dès 1500 mètres. Hein, ça va tomber dans la nuit de mardi à mercredi, toute la journée de mercredi. Et puis à partir de jeudi, la nette amélioration. Je vous promets, la deuxième partie de semaine va être beaucoup plus agréable hein, pour ceux qui sont dans le sud en ce moment et qui souffrent de ces intempéries. Là, de jeudi à dimanche, c'est des conditions anticycloniques avec du temps sec, ensoleillé, quelques brumes le matin et des températures de saison l'après-midi.
On souffre un peu et après, nous serons récompensés.
Je vous ai bien compris. À partir de jeudi, exactement.
Oui, vous avez une énergie formidable pour décrire tout ça. Bien. Merci cher Louis Baudin. Dans un instant, qu'est-ce qui se passe dans un instant? On va faire des choses agréables, non? Oui, vous savez quoi, les camarades? Eh ben voilà. On part autour du monde, en l'occurrence, on prépare les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin avec Stéphane Pombrin, notre correspondant sur place.
RTL, revivre ensemble. RTL autour du monde.
RTL autour du monde, direction la Chine ce matin. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin auront donc lieu dans 4 mois exactement, du 4 au 20 février 2022. Après les Jeux de Tokyo, ce sont les deuxièmes Olympiades à se tenir en pleine épidémie de Covid-19, d'où des Jeux un peu particuliers hein, que nous raconte Stéphane Pombrin, notre correspondant à Pékin. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Alors ce sera dans 4 mois tout juste. Est-ce que l'on sent déjà une certaine effervescence à Pékin?
Écoutez, pour avoir couvert ici les Jeux de Pékin en 2008, je peux vous dire que l'on est très très loin encore de la folie olympique d'il y a 13 ans en Chine. C'est toujours relativement calme et les principaux sites sont de toute façon isolés du reste de la ville. Aucun sportif étranger n'a pu encore s'entraîner sur ces sites. Seuls les sportifs chinois y ont accès. C'est la première fois qu'une ville accueille à la fois les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Alors Pékin veut mettre les petits plats dans les grands. Côté infrastructure, tout est prêt. 39 sites olympiques, de nouvelles lignes de TGV reliant Pékin et les montagnes du Nord et un grand moment de fierté nationale, évidemment, avec ce clip hein, qui passe en boucle sur les chaînes de télévision. Alors ce sera un peu particulier parce qu'à Pékin, on est quand même très loin des pistes de ski. Du coup, ici dans la capitale même se tiendront les épreuves en intérieur comme le patinage ou le curling. Et dans les montagnes du nord, à 200 km d'ici, où il y a plus de neige, eh bien, ce seront les épreuves en extérieur comme évidemment le ski.
RTL autour du monde, merci beaucoup Stéphane Pombrin. RTL à Pékin.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h38 ce matin, Isabelle Choquet, vous vous intéressez à une espèce en voie de disparition, le record sportif.
Oui, vous connaissez la devise olympique, Yves, plus vite, plus haut, plus fort. Bon, ça c'était à la création des Jeux modernes en 1896, mais si Pierre de Coubertin vivait encore aujourd'hui, il faudrait qu'il trouve autre chose, hein, parce qu'on a de plus en plus de mal à aller plus vite et plus haut. On peut lire ça dans Marianne cette semaine. Prenez les derniers Jeux à Tokyo. Médaille d'or du 100 mètres, l'Italien Marcel Jacobs à 9 secondes 8. Usain Bolt peut dormir sur ses deux oreilles. Son record à 9 secondes 58 tient toujours depuis 2009. C'est pareil chez les dames. L'américaine Florence Griffith-Joyner est invaincue depuis 88 avec un chrono à 10 secondes 49. Et c'est comme ça depuis une trentaine d'années. Les records tombent de moins en moins. 20 seulement à Tokyo. C'est pareil, voire un peu moins que les éditions précédentes. Et puis bon, quand ça arrive, c'est vraiment d'un cheveu. Hein. Aux 50 mètres nage libre, César Cielo décroche le record du monde masculin en 2009 avec 3 centièmes d'avance. Seulement le saut en hauteur masculin, bah depuis 1960, jamais un record n'a été battu à plus d'un centimètre d'écart. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Hein. On a vécu à Tokyo une course mythique, le 400 mètres haies. Le Norvégien Warholm a pulvérisé son propre record du monde. En fait, même le médaillé d'argent a battu le record. Et le troisième, le frôle. Alors, est-ce qu'ils avaient tous bu de la potion magique? Non, pas du tout. L'explication, c'est la godasse. De nouvelles chaussures qui contiennent une plaque de carbone. À chaque appui, il y a comme un effet ressort. C'est un peu comme les combinaisons de natation en polyuréthane, si vous vous souvenez, en 2008. Elles ont fait tomber plus d'une centaine de records, l'équivalent de 20 ans de progression physiologique d'une seule traite, selon un chercheur. Un autre confirme, le seul facteur qui peut encore repousser significativement les limites, c'est l'innovation technologique. De fait, depuis 1896, bon, on a eu le temps hein, quand même pour bosser la préparation, la récupération. On a étudié et joué sur la physiologie, la biomécanique, la nutrition, le sommeil, disent les experts. Il n'y a plus vraiment de marge de progression. Résultat, certains records pourraient ne plus jamais être dépassés. On est sur un plateau dans toutes les disciplines de l'athlétisme. C'est le constat de l'IRMES, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Sur 70 épreuves d'athlétisme, 64% ne s'améliorent plus depuis 1993. Pour la moitié des disciplines, d'ici 2027, on peut tout juste espérer améliorer les records de 0,05%. Biologiquement, nous avons des limites intrinsèques en tant qu'espèce, explique un chercheur. Nous ne courons jamais à la vitesse maximale d'un guépard. Bon, voilà, nous sommes bloqués. Quoique, les méthodes d'entraînement n'ont pas tant évolué depuis un siècle, dit une autre chercheuse. On a surtout augmenté la quantité et ajouté certaines pratiques de récupération comme la cryothérapie. Et selon elle, il faudrait maintenant qu'on se concentre sur le métabolisme des sportifs, leur consommation d'oxygène ou même leur activité cérébrale pendant l'effort. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de limite, dit-elle, mais à mon sens, nous n'y sommes pas encore. Pas encore, mais bon, pas loin et pas seulement dans le sport, hein, c'est ça le drame. À une époque, la plupart des enfants étaient plus grands que leurs parents. Bah, depuis 30 ans, la tendance s'inverse. Côté durée de vie, personne n'a battu les 122 ans de Jeanne Calment. Bref, pour les festivals de records au JO, je crois qu'on repassera, sauf à inventer les chaussures supersoniques. Courra-t-on un jour le 100 mètres en 8 secondes ? C'est un article à lire cette semaine dans Marianne.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve demain matin.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
À 6 mois du premier tour de la présidentielle, vous êtes comme ça, vous donne la parole tout au long de cette semaine pour savoir ce que vous attendez vraiment de cette élection. Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Que faut-il changer ou améliorer? Notre première étape se passe du côté de Roubaix, dans le Nord, en immersion dans les bâtiments du Secours Populaire de la ville. Et c'est un chiffre marquant. 23 000 Roubaisiens dépendent aujourd'hui, je dis bien dépendent, du Secours Populaire. Cela représente un quart de la population de la ville. Cette augmentation est une illustration des effets de la crise du Covid sur les familles de Roubaix, l'une des plus pauvres de France. Bonjour Antoine Decarne.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez suivi la conception des colis d'urgence distribués chaque jour à Roubaix.
Oui, à l'arrière du bâtiment, entre la chambre froide et les réserves de conserve, une vingtaine de bénévoles se relaient tous les matins.
Ça c'est la première étape, un paquet de gâteaux, voilà, un paquet de pâtes, une boîte d'haricots plats, une boîte de raviolis.
Et d'autres conserves, produits d'hygiène et produits frais, des caisses identiques distribuées du lundi au vendredi par Nora Chieb, la responsable du Secours Populaire de Roubaix.
Alors en fonction de la composition familiale, c'est une, deux ou trois fois dans la semaine. Avant le confinement, c'était 10 colis par jour. Et aujourd'hui, on est sur 175 colis par jour. C'est énorme, mais en même temps, il y a un besoin énorme.
Et aujourd'hui, sans qu'aucune autre association n'ait fermé, 8000 familles roubaisiennes sont inscrites au Secours Populaire. C'était 4000 avant le début du Covid.
On a de tout, vraiment. Les personnes qui travaillaient, qui étaient à peu près juste dans leur budget et qui se retrouvent à temps partiel. Ensuite, nous avons des retraités qui s'en sortent plus non plus. On a aussi les étudiants. Aujourd'hui, qu'ils arrivent de plus en plus pour des colis. Ça, c'est des nouvelles personnes, tout à fait. C'est une situation que nous n'avons jamais connue.
Et à l'avant du bâtiment, la distribution démarre. La queue fait déjà une centaine de mètres.
Vous pouvez avancer, monsieur. Elle vient pour faire la carte, en fait, pour une inscription.
D'accord, pas de souci.
C'est au moins 3-4 personnes par jour.
Nouvelles personnes?
Oui, qui viennent pour s'inscrire, en fait.
Et parmi eux, il y a Christophe. Il travaillait encore à Paris il y a un an.
J'étais dans l'hôtellerie et mon travail était fermé. Donc on m'a dit, on ne va pas vous garder. Quand vous n'avez pas aucune rentrée d'argent et que vous n'êtes pas aidé, je me suis retrouvé 15 jours sur les bancs publics. Donc je suis revenu dans le Nord. Et maintenant, je suis au RSA et je fais le Secours Populaire.
Et dans 6 mois, Antoine, ce sera donc le premier tour de l'élection présidentielle. Quelles sont les attentes de ces bénéficiaires?
Eh bien, leurs attentes sont simples. Ils veulent voir leur situation s'améliorer. Bruno, à 62 ans, employé d'une usine, il a été viré du jour au lendemain. Il vit aujourd'hui avec 500 euros par mois.
Qu'il nous aide un peu plus quand même de ce côté-là, qu'on n'ait pas les oubliés surtout. Alors moi, je vais voter. J'ai toujours voté. On est quand même des milliers à être précaire. On parle pour nous. Qu'ils augmentent un peu le RSA. Chez nous, il n'y a rien qui bouge.
Tous évoquent leur fin de mois difficile, les loyers trop chers et l'augmentation des prix, comme cette mère célibataire.
Je pense qu'on nous oublie. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas pris en compte, en fait. Vous voyez que la vie devient très très chère. Je vous cache pas que des fois, je peux pas mettre le chauffage. Faut qu'on nous entende. Faut que la politique nous oublie pas. Voilà. On nous oublie trop.
Et pour Nora Chieb, la responsable roubaisienne, il faut que ces sujets s'imposent dans la campagne.
La réalité aujourd'hui primaire, c'est de manger. Il faut quand même essayer
essayer de trouver des solutions à tous ces Français et ces Françaises aujourd'hui.
Car ici, ce sont uniquement sur ces sujets-là que les candidats sont attendus dans cette campagne, peu importe leur couleur politique ou leur personnalité.
Vous êtes comme ça, notre série de reportages qui vient donc à votre rencontre pour évoquer la présidentielle toute la semaine à 6 mois de l'échéance. Dans un instant, on retrouve Laurent Gérard.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Il est 8h47. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi.
En présence de Monsieur Lignac.
Tout à fait. Ah. Bonjour Cyril.
Bonjour Cyril.
Bonjour. La mort de Bernard Tapie a beaucoup fait réagir la classe politique. Bonjour François Hollande.
Bonjour. Ou plutôt, devrais-je dire adieu Bernard, salut l'artiste,
oui.
Au revoir le petit père des peuples.
Vous avez l'air vraiment très affecté par sa disparition, mais petit père des peuples, en effet, c'est peut-être un peu exagéré, vous ne trouvez pas ?
Non, Saint Bernard voulait toujours aider les petites gens, les pilvondaires qui duraient plus longtemps, c'était lui. Oui. Les Adidas avec les crampons qui se dévissent, le livret A au Crédit Lyonnais, c'était encore lui. La gym tonique pour tous à la télé, toujours lui. Les matchs truqués pour faire plaisir aux supporters, encore lui.
Ouais, bah vu comme ça, forcément.
Bernard Tapie, c'était l'ambition, l'élégance et la classe. D'ailleurs, j'achetais toujours mes slips, mes chaussettes et mes cravates chez Tapie à Barbès.
Ah non, là je crois que vous confondez, c'était chez Tati.
Tapie, Tati, qu'importe. Mon ami Bernard était au-dessus de tout ça. Ces derniers temps, il avait pris du recul, comme moi. Il a commencé chanteur, et moi aussi, on m'a fait chanter. Et après, la politique, il a fait du théâtre, du cinéma, de la télévision, comme moi.
Ah bon, vous aussi, vous comptez démarrer une carrière de comédien ?
Oui, je vais reprendre le rôle de Bernard Tapie dans Homme-femme, mode d'emploi de Claude Lelouch avec Valérie Trierweiler. J'aurais voulu être artiste pour pouvoir faire mon numéro.
Eh bien, merci pour ce bel hommage, François Hollande. Merci.
À vous, je peux bien le dire.
Oui.
Même s'il avait une Porsche et moi un scooter, je l'ai toujours admiré. Il me faisait penser à Jean Jaurès. N'oublions pas qu'il a été adoubé par Mitterrand. Il avait un yacht, un avion privé, un riad à Marrakech, une villa à Saint-Tropez. Je crois qu'avec Bernard Tapie, nous avons perdu le dernier grand socialiste de l'histoire.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Ah, mais c'est pénible ce machin là.
Bonjour Nicolas Sarkozy, c'est vous qui faites ce bruit ?
Ah, oui. Allez, ah,
c'est pénible,
c'est,
hein ?
Oui, c'est le cadeau que m'a offert la juge. Il est joli ce bracelet, mais il casse un peu les oreilles. Hein.
Mais oui, vous avez été condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal, une peine aménagée en détention à domicile, sous surveillance électronique. Du coup, ma première question est la suivante : que faites-vous ici ?
Mais vous voulez que je vous dise ce que je fais chez vous,
oui,
dans ce studio, en costume et chaussures cirées, plutôt que d'être chez moi, sur mon canapé, en jogging et pantoufles ?
Voilà.
Ben, je vais vous le dire. Je suis venu demander officiellement à ce qu'on m'enferme en prison.
Quoi ? Mais pourquoi ?
Ben, on voit que c'est pas vous qui devez toute la journée supporter les ritournelles italiennes chantées par une voix de fausset. C'est une torture. J'en appelle à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous en supplie, enfermez-moi. Et puis, les parties de Monopoly avec la petite Julia, ça va bien 5 minutes. Hein. En plus, elle est taquine, la petite Julia. Tout le portrait de son père.
Eh ben, c'est-à-dire ?
Ben, c'est toujours elle qui construit les hôtels internationaux rue de la Paix.
Ah, oui.
Et puis, je ne sais pas comment elle fait. Elle me fait toujours passer par la case prison sans toucher les 20 000. Franchement, je crois que je préférerais encore jouer à la belote avec Riton le dessoudeur dans une cellule à la santé.
Certes, mais vous avez maintenant tout loisir de vous adonner à votre nouvelle passion. On le rappelle, la culture.
La culture, oui, c'est ça. Vous avez raison. Je vais enfin pouvoir lire mon livre.
Ah oui.
Promenade, 300 pages, 29 euros chez Intermarché. Ça parle comme quoi que la culture, c'est l'essentiel de ma vie.
Très bien.
Je l'ai dit à votre consoeur qui a un nom de voiture, là, comment elle s'appelle déjà ?
Laurence Ferrari.
Voilà, c'est ça. Je lui ai dit, avec ma Carlita, tous les soirs, on regarde un film ou une série.
Oui, le problème, c'est qu'il y a quelques mois, votre épouse expliquait qu'elle était fan des Mystères de l'amour, la suite de Hélène et les garçons.
Et alors, quand Cricri d'amour, il se sépare de Fanny à cause que Nicolas, il a des vues sur elle,
eh ben oui,
malgré qu'il soit marié à Hélène, oula, c'est bouleversant.
Ah, voilà.
Ça vaut les livres pour maigrir d'Albert Cohen ?
Non, je crois que vous confondez Albert Cohen avec le professeur Jean-Michel Cohen.
Oui, bon, on va pas chipoter. Hein,
non.
Ah ben ça commence, faut que je vous laisse,
oui,
faut que je rentre à la prison. Je dis à la maison.
Oui.
En attendant, n'oubliez pas d'acheter Promenade, 300 pages, 29 euros chez Carrefour Market.
Oula, Tiens, tiens. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Gna, gna, gna.
Bah, ferme ta petite bouche de journaliste et ramène-moi plutôt Zemmour. Allez hop, et que ça saute.
Pourquoi voulez-vous qu'Éric Zemmour soit là?
Tu lis pas les sondages? Je débat avec lui et paf, je prends 2 points dans les sondages. Encore 10 débats avec ce petit bonhomme et il n'y a même plus besoin de faire l'élection, je m'installe à l'Élysée. Allez, fais péter le Zemmour.
De toute façon, Éric Zemmour n'est pas là.
Hein. Avec qui je vais débattre alors, hein? Avec qui?
Bah là, dans le studio, je vous propose Cyril Lignac.
Bah, je vais quand même pas débattre du temps de cuisson de l'œuf à la coque. Plutôt qu'un grand sympa, t'as pas un petit teigneux en stock?
Ah non, ça en a pas.
Bonjour madame.
Ah bah tiens, bah, bonjour François Ruffin.
Voilà. Bonjour patron.
Mais qu'est-ce que tu veux, Saturnin?
Je sors de chez Zemmour, il vous adore. Hein. Depuis votre débat avec lui, il a doublé ses intentions de vote. Maintenant, il est devant vous. On est mal, patron, on est mal.
Mais qu'il est con!
Tournons maintenant une page de publicité avec notre ami Benjamin Castaldi.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur de télé-réalité qui écrit des livres sur son papy Cotard et sa mamie Cocu. En mai prochain, si Éric Zemmour est élu et il est le président, il faudra adapter notre alimentation. Je vous présente donc mon nouveau livre « Manger comme j'aime avec Zemmour ».
Et en quoi consiste la cuisine d'Éric Zemmour? Vous nous intriguez.
C'est comme pour les prénoms. La cuisine arabe sera autorisée à condition de la franciser. Dans mon livre, vous découvrirez donc la recette du couscous de Zemmour à base de jarret de porc. La recette du tagine de Zemmour à la saucisse de porc. Sans oublier la pastilla au porc, les briques au porc et en dessert, les cornes de porc avec un bon thé au porc.
Bah ça fait beaucoup de porc. Hein.
Je sais, mais quand Zemmour sera élu, tout le monde va manger du porc. Pas comme ma mamie Cocu qui n'aimait pas la saucisse. Et c'est pour ça que mon papy Cotard, il allait tremper la sienne dans Marilyn Monroe.
Oh non, ça, non, mais ça c'est pas possible. Vous risquez de reprendre vos kilos avec toutes ces recettes à base de porc. Vous n'avez pas peur de perdre le salaire que vous verse comme j'aime?
Si, mais c'est pas grave, parce que maintenant que je suis auteur de best-seller, je me fais plein de sous. Et puis de toute façon, je peux plus faire de pub parce que j'ai cassé ma perche selfie en essayant de me gratter le dos avec.
Nous rions un peu avant de poursuivre.
Oui, rions un peu.
Voilà. Eddie Mitchell va faire paraître un nouvel album en préambule, un single dont le titre est « Un petit peu d'amour » est sorti il y a quelques jours. Cette chanson est un hommage à son ami disparu, Johnny Hallyday. Voici un extrait.
Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère presque un sosie.
Bonjour Monsieur Eddy.
Ah oui, hello, Sister Jane. Good morning, Mr. Calvi, qui, comme moi, aime le rock et la country. Je lui conseille d'ailleurs de mettre une petite cravate ficelle de cow-boy autour des cols de ses célèbres chemises, la fameuse Calvi's chemise. Ah oui, ce serait joli, avec autour de son cou, non pas une tête d'apache en métal, mais une tête de bœuf pour célébrer la plus grande passion de Mr. Calvi.
Quoi, le rodéo?
Non, le bœuf bourguignon, le fameuse Burgundy Beef.
Bien, revenons plutôt à cette très belle chanson hommage à votre ami Johnny Hallyday.
Absolutely, mais j'aurais pu, comme Anne Hidalgo, the famous dingo du vélo, l'honorer d'une sculpture en ferraille, mais je ne suis pas assez chez Casto, pas passé chez Casto, je n'avais pas la boîte à outils. Du coup, j'ai utilisé mon matériel personnel, c'est-à-dire quelques notes de musique et puis un petit peu d'amour.
Oui, on ne vous sent pas très convaincu par cette sculpture inaugurée, rappelons-le, à Bercy par Laetitia Hallyday et la maire de Paris. Une sculpture composée d'une moto désossée posée sur un manche de guitare géant.
Ah oui, et pourtant c'est joli. Poser une moto sur un pylône en forme de manche de guitare témoigne d'une belle imagination ou de problèmes psychiatriques sévères. The famous zinzin thérapie.
Pourtant la guitare et la moto étaient les deux passions de Johnny. Hein,
ah mais oui, ça, je dis monsieur, absolutely, Miss Jade. D'ailleurs, j'attends avec impatience l'inauguration d'une sculpture hommage à la carrière trop brève de Benjamin Griveaux. Un phallus géant, John Phallus, en acier de 25 mètres avec un smartphone désossé dessus. Ah oui, alors là, je dis bravo, ils sont prêts à tout.
Merci, c'est clair, monsieur.
Ils sont vraiment prêts à tout. Oui, merci, monsieur Eddy, pour cette analyse de la situation. On vous retrouve donc les uns et les autres sur le site RTL.fr. On vous souhaite une excellente journée.
Mais bonjour. Et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange?
Des légumes farcis.
Des légumes farcis.
Ce fameux farci de légumes.
Au bœuf ou au porc?
Au porc. Au porc, ben voilà. On avait tout, on se prépare à l'arrivée d'Éric.
Voilà, ça tombe
bien. Ce sera dans un instant avec Cyril Lignac. Merci à toute l'équipe, on vous retrouve sur le site RTL.fr.
Merci.
Salut.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, une question d'Alice de Brest qui voudrait savoir ce que vous lui conseillez de faire avec des légumes un peu trop mûrs, nous dit-elle. Trop mûrs pour être dégustés en crudité, mais comment les cuisiner en un plat qui sent bon l'été sans déjà ressembler à une nage de pot-au-feu? Voilà.
Bah, je pense qu'on va trouver un chemin entre les deux.
Oui, c'est ça, intermédiaire.
Parce qu'on n'est pas encore en hiver. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une très très bonne idée.
Oui.
Et donc, du coup, on va préparer une farce qui va nous permettre de farcir les légumes.
Super.
Quand ils sont un peu abîmés, c'est encore mieux puisqu'ils sont déjà un peu mûrs.
Tendre.
Et à la cuisson, ça va aller. Donc, on prend 600 g de chair à saucisse que je fais revenir avec un oignon dans de l'huile d'olive. J'ajoute les chapeaux, la pulpe de tous ces légumes, donc les poivrons, les tomates, on peut mettre des aubergines, des courgettes. On laisse mijoter. Ensuite, on ajoute du persil, de la sauce tomate. On laisse cuire 45 minutes. On a déjà vidé nos légumes. On dépose la farce dans les légumes. Mmh. On fait chauffer le four à 180 degrés. Je mets un petit peu de chapelure, des petites noisettes de beurre pour que ça caramélise dessus. Et là, on met au four 25 minutes. Ça va cuire. Et là, on a repassé nos légumes un peu trop mûrs. On a un plat en sauce qui est mitoyen entre l'été et l'hiver. On n'a plus qu'à se régaler. C'est hyper bon, pas cher. Et c'est délicieux.
En 45 secondes, il vous a tout expliqué. Et vous retrouvez la recette sur le site RTL.fr. Merci Cyril, à demain.
Merci.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 9h, un point sur l'information avec Dominique Tenza.
Des cahiers de condoléances vont être installés ce matin au stade Vélodrome où les supporters de l'OM et tous les Marseillais pourront venir rendre hommage à Bernard Tapie. Benoît Payan, le maire de Marseille, a confirmé qu'une chapelle ardente serait installée rapidement de manière à ce que tous ceux qui le souhaitent puissent se recueillir une dernière fois. Marseille, ville auquel le nom de Bernard Tapie restera à jamais associé. C'est là d'ailleurs qu'il a choisi d'être inhumé vendredi. Ses obsèques seront célébrées à 11h à la Major, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Sa dépouille rejoindra ensuite le cimetière de Mazargues, la disparition de Bernard Tapie, l'hommage des Marseillais, des Français, le témoignage de ses proches, dossier spécial à retrouver sur notre site internet rtl.fr. Les élèves de primaire à partir de 6 ans vont pouvoir ce matin tomber le masque dans 47 départements, ceux où l'incidence est stabilisée en dessous de 50 cas pour 100 000 et ce, depuis 5 jours au moins. Seuls les enfants sont concernés. Pour tous les adultes de l'école, le masque reste obligatoire. Les Bouches-du-Rhône, placées en alerte rouge, pluie, inondation en raison d'un violent épisode orageux qui comporte un risque de phénomène violent. Hier, ce sont le Gard et la Lozère qui ont été touchés par des pluies diluviennes. Les pompiers ont procédé à des centaines d'interventions. Le mystère peut être enfin levé dans l'affaire du Bugalet de Braise, le chalutier breton dont le naufrage en 2004 avait fait 5 morts. A-t-il été coulé par un sous-marin en exercice qui se serait pris dans ses filets? Le Royaume-Uni a décidé de rouvrir l'enquête à partir d'aujourd'hui. Le Paris-Roubaix, remporté hier par l'Italien Sonny Colbrelli au 118e édition, exceptionnellement boueuse sous la pluie et marquée par de nombreuses chutes. Et puis quelques résultats en football. Match nul dans le derby entre Lyon et Saint-Etienne, un partout. Marseille battu par Lille 2-0. Et puis première défaite de Paris depuis le début de la saison à Rennes hier, score 2-0. Le PSG qui reste premier du classement, suivi de Lens et de Nice.